cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Bernie Ecclestone risque la prison, mais soutient un grand prix de Formule 1 à Londres.
Dino découvre que Mario et Luigi ne sont pas gays.
Sébastien Vettel doit surveiller son comportement.
Maria De Binotto est victime d'un grave accident avec Marussia.
Red Bull devient parano mais risque de dominer à nouveau.
Ginji et Dino parlent d'œufs.
Et Fab se fait tailler un costard.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du MAC du SAV. Cette semaine, comme toutes les deux semaines, nous allons revenir sur l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Chidi.
Et qui nous accompagne cette semaine, Dino?
Alors, malheureusement, pour des raisons pratiques, Steph Core ne pourra pas nous rejoindre.
Non.
Hein, c'est Steph Core, nous pensons à toi, toi qui es...
Au fond du trou.
Il vous expliquera peut-être. Et puis, vous avez reconnu sans doute Fab. Et à côté de Fab, ce ne sera pas Ben, puisqu'on en a marre un petit peu. On a eu deux fois un Belge de suite, c'était pas possible. Donc, on s'est dit, allez, on va faire venir Gus Gus.
Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Messieurs, passez une bonne semaine.
Très bonne.
Dur.
C'est fini. Le dimanche soir a été moins bon, mais le reste a été nickel.
Oh bon, moi je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a eu dimanche soir?
Disons qu'il y a eu une mauvaise soirée pour la Scuderia Ferrari, une bonne soirée pour Fernando Alonso.
Voilà. Vous êtes sûr, hein, le résultat aurait été différent, il aurait encore une fois voulu chanter cette semaine.
Oh non, mais il va pas chanter tout le temps, enfin, à un moment, faut quand même arrêter, quoi.
Rattali.
Non, danse maintenant, danse.
Mais c'est assez scandaleux, moi, je pense. Je veux qu'il y ait une émission sans notes de musique. Et sans fausses notes.
Messieurs, vous avez préparé votre question, car c'est à vous cette semaine.
Oui.
Puisque c'est l'heure du quiz, bien évidemment. Oui.
Alors si je prends un ton grave, c'est parce que l'heure est grave.
Oui. Rappelons les scores. 15 à 11 pour nous, bien évidemment.
Seulement ? Ah, dis donc, on a faibli, je nous ai connus plus fort.
On n'a jamais été au-dessus d'un écart de 4.
Alors, disons que de toute façon, on sort de deux semaines de Steph Core et Ben.
Ouais, faut dire quand même
donc c'était
des gens plus âgés, déjà.
Et puis la question de la semaine dernière, il y a deux semaines avec Hunt, tu aurais trouvé quoi. Donc j'avais un peu les nerfs, mais bon, c'est pas grave. On va se rattraper maintenant.
C'est le couillon, hein.
Ah ouais, hein.
De toute façon, on a trouvé la technique, on s'envoie les réponses, et puis comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Ouais, ouais. D'ailleurs, la réponse est 42.
Pas loin. Alors, messieurs, je vous propose un chiffre qui est le chiffre 2093.
C'est une année?
Non. C'est un champ du monde vachement serré.
C'est l'année de mort de Bernie.
Non, c'est 2112. Une comment?
Une somme d'argent.
Non, pas d'argent.
Il y a une unité derrière ou c'est un nombre de quelque chose?
C'est bizarre cette question. Non, il y a pas. Enfin, c'est un nombre de quelque chose. Bon, c'est une unité aussi.
C'est un nombre de personnes?
Non.
C'est un rapport avec les voitures?
C'est un rapport avec les voitures, mais c'est pas essentiel.
C'est un rapport quand même avec la F1.
Ah oui, merci.
C'est moi qui pose cette question.
Ouais, là, franchement, ça me fait un peu de mal. Je vais me casser sans donner la réponse, vous êtes bien emmerdés.
Donc t'as dit qu'il y a une unité, hein?
Oui, il y a une unité, mais... Oui, il y a une unité, oui.
C'est un nombre de quelque chose. Voilà,
c'est
pas
un nombre
un chiffre,
de quelque chose,
ça.
Oui. Et le monsieur qui fait cuire des pâtes, là, il peut pas donner des...
Le schmilblick est-il vert?
Il l'a été.
Ah, il ne l'est plus.
Il le fut. Donc mais ça va pas vraiment vous aider, je pense.
Bah c'est Bernie Ecclestone.
Mais Bernie, il a été toutes les couleurs, Bernie.
C'est un rapport avec un pilote?
Non, jamais il sera rouge, jamais.
C'est un rapport avec un pilote, oui.
Ah, est-ce que c'est le nombre de questions qui ont été envoyées à Fernando Alonso sur Twitter?
Non. Non, par contre, ça pourrait être très bien le nombre de compliments qui ont été adressés à Fernando Alonso. Enfin bon, on y reviendra, je pense.
Tu te buttonises.
Non, c'est Button qui se fabise.
Il était vert chez Jaguar?
Non.
Il était vert chez Jordan.
Il était vert chez Jordan, oui.
Donc c'est Schumacher.
Bien.
C'est quoi déjà le chiffre
2093, c'est ça, hein?
C'est ça.
C'est le nombre de fans qu'avait Jordan à l'époque.
Je sais pas comment on aurait pu calculer le nombre de fans, donc.
Bah tu fais un échantillonnage après. Mystère.
L'assemblée des fans de Jordan.
Mais ça a pas rapport avec Jordan. C'était juste
non,
un.
Non, ça a pas de rapport avec Jordan.
Mais c'est un rapport avec Schumacher.
C'est un rapport avec Schumacher, oui.
C'est un record de Schumacher?
C'est pas un record, non.
Ah,
non,
je sais.
Schumacher, c'est ni un record, d'ailleurs.
Je sais. C'est le prix du pantalon en cuir qu'il avait quand il est venu chez Drucker il y a quelques années.
Il y pense encore aujourd'hui, c'est...
Tu sais que.
Mais je pense que ça aurait pu. Hein.
J'ai reçu une invitation pour poser une question dans le panel F1 Racing et j'ai failli demander, Michael, portes-tu toujours des pantalons en cuir? Et je me suis dit, non.
Ils vont pas la prendre.
On va essayer d'être sérieux.
On lui donne quand même la possibilité de poser des questions sérieuses, de faire un beau boulot et tout. Et lui, il pense aux pantalons en cuir.
Eh, hey, c'est soit tu lis pas F1 Racing, hein, parce que parfois les questions qu'il pose.
Non, je ne lis que fan F1, moi, monsieur.
C'est quelque chose sur toute la carrière de Schumacher?
Non.
La vie privée de Schumacher?
Non.
C'est le nombre de gens qui ont pronostiqué son podium au Pirelli Challenge?
Peut-être, mais non.
C'était la cote de Schumacher avant le Valence pour monter sur le podium.
Ça fait beaucoup, là, quand même.
2,93.
Oh, ça va.
Un euro, tu gagnes 2,93.
Même Kartikeyan, il a une meilleure cote, quoi.
C'est pas mal.
Ah bah, tu sais, Kartikeyan, il fait tout ce qu'il peut en Europe. Hein.
Attends, 9e meilleur pilote de la course, quand même, ça se respecte.
Ouais, oh. Hey, hey, attendez.
Surtout pour un mec qui a fait une course à la Rosberg, tu vois, super bien classé, oui. Qu'on n'a pas vu.
Oui, mais c'est les gens qui choisissent, Dino.
Oui, bah oui, bah... oui. C'est un rapport avec un pari sportif, non?
Non, aucun.
C'est lié à une actu récente?
Oui.
Qui concerne directement Michael Schumacher?
Ah oui, peut pas être plus direct.
C'est un rapport avec son podium, donc?
C'est un rapport avec son podium, oui.
C'est le nombre de minutes qu'il a... Non, le nombre de... Non, c'est trop long.
Secondes.
Ouais, le nombre de secondes qu'il a fallu pour prendre la décision sur le drapeau jaune.
2000 et quelques secondes, ça fait beaucoup, non?
Ouais, c'est le nombre de...
Il est vieux, mais pas tant que ça, quoi.
Est-ce que c'est un chiffre qu'on t'a donné ou est-ce que c'est un chiffre que tu as toi-même trouvé ou déduit?
C'est un chiffre que j'ai moi-même trouvé.
D'accord.
Mais j'ai pas été chercher bien loin. Hein.
C'est un nombre de kilomètres?
Non.
Le nombre d'articles que ça a généré sur Internet?
Non.
Comment parler? Non.
Ah, nombre de vues des articles?
Non. Non, il y a des articles qui font beaucoup plus que ça.
Quasiment tous les articles font plus que ça sur FanF1.
Oui.
Quasiment.
Voilà.
Est-ce que ça a un rapport avec la polémique du DRS quand même?
Non.
C'est quelque chose qu'il a fait pendant cette course particulièrement? Ou c'est vraiment par rapport au podium?
C'est par rapport au podium.
Est-ce que c'est un nombre de jours?
C'est un nombre de jours, oui.
C'est le nombre de jours depuis son dernier podium en Formule 1?
Exactement.
Wow.
Give me a man.
Non. Bah dis donc.
Si tu veux.
Un homme, les pantalons en cuir, bientôt la moustache. Non, ça suffit.
In the Navy.
Je savais que t'aimais beaucoup Freddie Mercury, mais quand même.
Ouais, on ne rigole pas. C'est bien d'aimer Freddie Mercury.
Attention.
Attention. Hein.
C'est quoi ce sous-entendu?
C'est pour ça qu'il m'a demandé une photo hier.
Tout à fait.
Ouais, mais sans pantalon. C'est plus dur à trouver.
Et ça fait 17 à 11.
Ouais, c'est dit.
C'est pas ça.
Ouais.
Non mais ça c'est les gens se moquent des chiffres.
Mais bien sûr.
Tu vas laisser
la manière que je...
Donc oui, 2093 jours, c'est donc l'écart en jours entre le dernier podium de Schumacher avant sa retraite qui était sa victoire au Grand Prix de Chine en 2006 et donc le podium à Valence. Ça représente 100 Grands Prix d'écart. Mais alors c'est le deuxième plus grand écart en année, ça représente 5 ans, 8 mois et 13 jours et c'est le deuxième plus grand écart et à votre avis qui détient le plus grand écart entre deux podiums?
C'est pas Alexander Wurt?
C'est ça, tout à fait.
Oh.
7 ans, 9 mois et 11 jours entre le Grand Prix de Grande-Bretagne 97 et celui de Saint-Marin 2005.
Ah oui, non, Saint-Marin.
Ouais, non, en fait, voilà. En fait, lui, c'était pas son dernier podium. Son dernier podium, c'était effectivement au Canada en 2007. Ouais. Et ça représente un écart de 129 Grands Prix. Parmi les pilotes en activité, je vais vous demander, alors, il y en a pas beaucoup, il y en a pas énormément, hein. J'ai pris les durées qui sont au-dessus de 2 ans. Quel pilote, à votre avis, a plus de 2 ans entre deux de ses podiums?
Niki Lauda, peut-être?
En activité.
Ah, en activité.
Niki Lauda.
Raikkonen?
Ouais, tout à fait. Kimi Raikkonen, forcément, avec sa pause.
Massa?
Non plus. Pas Massa, non. C'est moins d'un an, Massa.
Ah oui, il y a l'Allemagne en 2010.
Eh oui.
Bah oui.
Raikkonen, ça représente 2 ans, 7 mois et 9 jours. Ça représente 46 Grands Prix. Et c'est donc entre le Grand Prix d'Italie 2009 et le Grand Prix de Bahreïn 2012. Mmh. Ensuite, à votre avis? C'est pas forcément le plus évident.
Moi, j'ai Weber.
Alors Weber faisait partie, mais il y a eu plusieurs périodes, mais j'ai pas appris puisque c'était moins de deux ans. C'est pas Kovalainen.
Donc Kovalainen, ça fait un bail quand même.
Ouais, mais il a pas fait de podium.
Bah oui.
Bah justement.
Bah oui, il a fait des podiums.
Depuis qu'il est plus chez McLaren, non.
Depuis chez McLaren, non. Hein.
Bah oui, non, mais il est en activité.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est l'écart entre deux podiums, c'est pas l'écart entre...
Oui, son compteur est en cours, mais pour qu'il...
Oui,
pour
non, mais voilà, non, mais... Entre
guillemets, faut qu'il y ait un point de départ et un point d'arrivée.
Ouais, mais il est déjà au-dessus des deux ans.
Oui, par contre...
Mais ça veut pas dire qu'il va faire un podium.
S'il fait un podium, on le signalera.
Mais il fera des podiums, messieurs, je vous le promets. Je tirerai moi-même sur les pilotes s'il le faut, mais il fera un podium.
Avec les oiseaux Angry Birds.
Voilà.
Donc c'est un pilote qui a été champion du monde récemment. Et sa période de disette correspond à une période qui était avant son titre de champion du monde. Oui, c'est ça. Jenson Button, 2 ans, 5 mois et 7 jours. Ça représente...
Mais c'était avec quelle équipe?
Eh oui. Et c'était entre le Brésil 2006 et l'Australie 2009, évidemment. Et j'ai juste pris un petit comparatif entre trois pilotes d'époques différentes qui sont à peu près restés sans podium pendant la même période. Michael Andretti, qui est resté 5 ans, 5 mois et 23 jours sans podium, ça représentait 78 Grands Prix.
Michael,
Michael. Mario Andretti, pardon.
Ah.
Et Michael.
Ouais, Michael, il a fait...
Oh, Michael. Quel con. On peut pas faire d'écart entre les podiums de Michael. Donc ça, c'était entre l'Afrique du Sud 71 et les Pays-Bas 76. Edith Cheever, lui, il est resté 5 ans pile sans podium. Ça représentait là aussi 78 Grands Prix. Et c'était entre l'Italie 83 et l'Italie 88. Et enfin, Jim Rattman, qui ça représentait aussi 5 ans tout rond. C'était dans les années 50. Alors lui, c'est un peu particulier parce qu'il
participait
qu'à l'Indy 500, tout à fait. Et ça ne représentait à l'époque, ces 5 ans, que 42 Grands Prix. Voilà. Bravo, messieurs.
Et Jim Rattman qui est mort l'année dernière.
Oui. Enfin, je sais pas.
Oui, non, mais oui.
Il dit pas que des conneries, hein, parfois.
Soit.
Bah, c'est bien, ça. 17-11.
Wouhou!
Oui.
Va falloir se mettre en cause, je crois.
Les têtes vont tomber, messieurs.
Je crois d'abord, faut commencer par changer le sélectionneur.
Ouais, je...
Ensuite. Si. Passer en commission et essayer d'établir des sanctions, hein, parce que là, c'est en déliquescence. Si vous voulez, nous, on peut vous conseiller quelques petites personnes qui pourront vous aider à faire des questions, etc.
On va faire un Grenelle du Mac PSAV.
Oui, voilà.
Ça me paraît essentiel.
Très bien, messieurs. Sur ce, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Donc commençons d'abord par le sondage qu'on vous avait proposé il y a 2 semaines, qui a été l'actu principale donc, du MAC du 20 juin. Vous avez été 39 à voter, merci comme d'habitude. Est arrivé dernier, avec 3 votes, Sky qui obtient également les droits télévisuels pour l'Italie. 4 votes, Rosberg et Mercedes jouent le titre. Mais le podium, 7 votes, Valence qui peine à vendre ses billets, ça fait 17,95%. 8 votes, aujourd'hui en 2014, la chasse à la réduction des coûts, 20,51%. Et en tête, vous avez mis avec 17 votes, les pilotes Lotus, Grosjean impressionne et Raikkonen n'inquiéterait pas Boullier avec 43,59%. Gus Gus et Fab, si vous voulez revenir sur cette actu.
C'était les actus principales ou celles dont on s'en fout?
C'était les actus principales.
On avait un doute.
Quand même.
J'aime beaucoup, ouais.
C'est vrai que c'était pas une grosse semaine, hein.
Non, c'est pas une semaine, non.
D'ailleurs, apparemment, cette semaine, ils ont décidé de se rattraper un peu. Ils se sont dit, on écoutait le dernier Mac du SAV, c'était pas terrible. Bah, là, cette semaine, on va donner des grosses news.
Je vous dis, si on avait enregistré hier, ça aurait été aussi une semaine chiante.
Non, je suis pas d'accord. Il y avait des choses.
Oh, non, mais elle va être chiante quand même, hein. Enfin bon. Il y a pas de problème. Non, mais sinon, je pense que ce top 5 est logique.
Je pense que le plus important, c'est les 3 points.
L'important, c'est les 3 points. On va mettre le bleu de chauffe, et puis voilà.
Non, mais dites-le que vous n'avez rien à dire. Au moins, ça nous fera gagner du temps.
Bah, je pense que Valence a confirmé que l'actu qui arrivait en tête était plutôt vrai, non?
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
C'est bien dit.
C'est très bien résumé.
Merci. C'est depuis que je porte un costume.
Oui. Ah, t'es beau, t'es sémillant dans ton petit costume.
Ah, arrête. Arrête d'employer des mots aussi longs, ça.
Je sais que t'aimes bien quand c'est long.
Ah bah. Alors, les auditeurs peuvent pas tout savoir, mais c'est vrai.
On se calme, parce que là on va passer aux actus de la semaine et des 2 dernières semaines, et on va ouvrir avec, j'ai envie de dire, l'actu de la semaine, mais même l'actu du jour.
Oui, parce qu'on a appris donc ce matin qu'il y a eu un accident lors d'essai pour le compte de Marussia avec Maria De Villota.
Voilà, donc on précise donc qu'on enregistre mardi soir, hein, donc que ça a été confirmé qu'elle va bien, qu'elle est consciente.
Hein, le bilan des essais de Marussia sera pas très bon.
Surtout que c'est l'introduction de leur gros package nouveauté ce week-end normalement en Grande-Bretagne. Et, si c'est ce qu'ils ont essayé, il paraît que l'avant de la voiture est détruit. Donc il faut... bon, c'est secondaire, mais c'est
voilà,
vrai
qu'il faut rappeler. Donc c'était des tests en ligne droite, donc sur l'aéroport de je sais pas.
C'est horrible quand même.
Non mais sincèrement, on a tous eu sans doute le même réflexe au début de se dire mais comment tu peux te gaufrer dans un test en ligne droite. Voilà.
Mais c'est pas pour le test que c'est gaufré.
Mais c'est même, en fait, c'est même pas elle quoi. C'est tu te dis mais comment est-ce que c'est possible de te retrouver dans des conditions à un moment donné dans un test en ligne droite pour te gaufrer.
Non mais à la limite, quand on savait pas trop, qu'on avait un peu peur, on se disait bon alors, elle devait être lancée à pleine vitesse et puis il y a eu une couille, enfin elle est partie, enfin tu vois, une casse mécanique, elle est partie sur le côté.
Oui, voilà.
Traîner. Mais là, quand t'apprends au fur et à mesure de la journée que c'est en revenant pour se garer sous la tente,
oui, elle s'était ralenti, donc elle avait ralenti.
Ah bah oui.
C'est apparemment sûr, d'un coup ça a réaccéléré, donc apparemment la thèse qui circule, qui n'a pas été vérifiée, hein, mais qui circulerait, ce qui a été évoqué, ça serait, c'est quoi?
L'anticalage.
Et c'est vrai que bon, l'idée de F1 contre Bahut, tu te dis que ça a été violent. Apparemment, elle est quand même restée près de 15 minutes sans bouger. Hein.
Sans bouger, et ils ont mis une heure pour la retirer. Et ce qu'il faut noter, parce qu'on est passé, voilà, on rigole un peu, et voilà, je pense que c'est surtout la tension de la journée, parce qu'on n'aime pas du tout ce genre d'actu, et que, voilà, on a quand même passé toute la journée à être inquiet pour elle. Faut quand même préciser qu'on est aussi grandement passé à côté du drame, parce que ouais, dans les descriptions qu'il y a, on raconte quand même qu'elle a traversé au milieu des mécaniciens et compagnie. C'est-à-dire que elle arrive pour passer sous la tente, et puis à un moment donné, elle réaccélère, elle traverse au milieu des mécaniciens sans en taper un, et termine sa roue dans le camion, où là, il y a souvent après les camions, il y a un plateau
qui
se rabat, voilà. Et elle se prend le plateau dans le casque. Elle a plusieurs, elle est blessée au visage et elle a plusieurs traumatismes crâniens apparemment. Mais entre guillemets, il n'y a que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Alors on a eu très peur quand même, hein, quand on a appris les circonstances, parce que faut quand même savoir qu'une F1 qui tape un camion, c'est pas du tout un choc qui est adapté, quoi. Enfin c'est typiquement.
Non, puis enfin un plateau baissé.
C'est pas conçu pour.
En plus, non, on imagine bien qu'un plateau baissé, donc qui est à l'horizontal, si c'est au niveau du casque.
C'est
voilà,
pile au niveau du casque.
C'est voilà.
Il y a une photo qui a circulé sur Twitter, on voit bien que c'est effectivement, c'est quasiment de... Enfin, c'est-à-dire qu'il fut une époque, s'il n'y avait pas eu sur le côté les renforts au niveau de la tête du pilote, il fut une époque où sans doute elle était décapitée.
Oui.
Ouais.
C'est là que ça devient joyeux, cette émission.
Ah, ça rendons hommage à tous les pilotes décapités.
Il y en a eu combien, Fab?
Alors, attends, que je me souvienne. Je pense que... Alors, il y en a un sûr.
Il faut mettre petite musique derrière.
Helmut Koenig, lui, c'est sûr.
Ah, c'est pas le bout de Marco. Merde,
non,
ils sont bourrés.
Bref.
Bref.
Non. Et manque de bol, quand même, ça tombe sur,
oui,
en une femme pilote.
Ça tombe sur une femme.
C'est vrai que, malheureusement, bon, ça va bien. On est tous là, on est détendus à faire des blagues. Malheureusement, ce qui est quand même grave, c'est que ce genre d'accident, derrière, forcément, ça a peut-être même déjà commencé à alimenter. J'ai vu des commentaires sur Twitter, etc. Je sais pas si c'était de l'humour ou si c'était vrai, mais le discours anti-femme au volant et compagnie, malheureusement, ça, on n'y échappe pas, quoi.
Ouais.
Nous, on a de l'humour, mais après, on le dit parce que...
C'est un peu le problème c'est un peu toujours ce qui était sous-jacent, mine de rien, dans les commentaires, même quand c'était pas sûr, on n'était pas certain qu'elle allait bien, c'est un peu prendre de haut, quoi.
C'est pas une novice, ça, non plus. On sait pas du tout ce qui s'est passé, hein.
Déjà, on sait pas.
S'il y a un problème sur la voiture, est-ce qu'elle, elle a fait une erreur par inexpérience? Et l'inexpérience, c'est pas le fait qu'elle soit une femme, hein. Si ça avait été un mec aussi inexpérimenté, il aurait pu faire le même type d'erreur.
Ouais, mais après,
Non, je suis désolé, Shinji. Jamais Neral Kartikeyan n'aurait fait une erreur de ce genre. Il a 2 points au classement du SAV, Shinji.
Rappelle-toi. S'il te plaît. Pardon à la famille.
Ouais, tu t'exposes à de grandes déconvenues.
Je sais.
Il va être 5e à la prochaine course, il va gagner en Hongrie. Hein.
Mais c'est mon but.
Attention.
T'as pas compris, je suis le plus grand fan de Neran Kartikeyan, je veux qu'il soit vainqueur.
Ouais, mais enfin après on dit ça et puis on grille au scandale. Hein.
Oui. Tous les ans on a la blague.
Ah bah c'est la réédition, hein, c'est normal.
La version 2012.
Après, comme d'habitude, on va ressortir les mêmes trucs sur les fameuses bulles, est-ce qu'il faut protéger les casques des pilotes, sur aussi la sécurité autour de ces essais. Comment ça se fait qu'un camion soit aussi près d'une F1, bon, même si...
je pense sincèrement qu'il n'y a rien à reprocher à la sécurité et compagnie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des essais en ligne droite sur des pistes d'aérodrome et compagnie, dans des conditions qui sont pas optimales. Voilà, oui. C'est des incidents qui, malheureusement, c'est le type d'incident qu'on ne verra pas lors d'essais officiels, heureusement. Et c'est le type d'incident qui peut arriver dans ce genre de séance et c'est toujours regrettable. Maintenant, est-ce qu'il faut remettre en cause la sécurité ou compagnie? Il y en a eu aussi des dizaines d'essais comme ça qui tournaient pas mal.
Oui, parce que c'est une piste qui est utilisée par pas mal d'écuries. Enfin, c'est vraiment la première fois qu'il se passe quelque chose de comme ça, quoi.
C'est quand même un gros concours de circonstances. Que le camion soit là à cet endroit, qu'il y a un problème pile au moment où c'est l'angle qui fait que la voiture se dirige justement sur le camion qui a le truc baissé.
Mais globalement, tous les derniers gros accidents, c'est toujours des circonstances de fou.
Mais même globalement, hein, de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que avec les mesures de sécurité qui sont prises, etc., toutes les règles qu'on a prises, aujourd'hui, vraiment, pour qu'il y ait des accidents qui soient dramatiques, faut vraiment que les circonstances soient exceptionnelles.
C'est comme Massa et le ressort. La probabilité que le ressort arrive, qu'il se le prenne, qu'il passe. Voilà, c'est vraiment à chaque fois des probabilités, un peu comme le ressort de Massa. C'est peut-être un truc qu'on ne reverra jamais, quoi.
Ben, un choc à la tête, de toute façon, c'est le dernier point de faiblesse des Formule 1, quoi. On protège pas la tête, après, c'est la discipline c'est l'histoire de la discipline, mais c'est forcément un point de vulnérabilité du pilote.
Envie de rajouter quelque chose? Donc, sur ce cas, donc, on rappelle, hein, elle va bien, hein, y a pas de souci. Enfin, en tout cas, elle est consciente, son état est stable et, voilà, c'est...
Elle va bien. Et les nouvelles sont rassurantes.
Voilà, les nouvelles sont rassurantes. C'est pas aussi
dramatique qu'elle pouvait l'être ce matin. Et c'est d'ailleurs aussi, ça pose aussi des questions du point de vue des médias. C'est-à-dire qu'on trouve que, on a cité, par exemple, dans les commentaires, certains des concurrents de Fan F1. Faut aussi, par moment, aussi, sur ce genre d'actu, on est à une ère où aujourd'hui, on est très rapidement au courant de ce genre de choses. Et très rapidement aussi, on part sur des scénarios, ce qu'on disait tout à l'heure, sur la responsabilité éventuelle de Maria De Villota. Voilà, on est déjà en train de tisser des scénarios, voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où on est tellement focalisé sur l'info que du coup, on part à lancer des explications sans avoir véritablement d'infos.
Actuellement, on n'a aucune explication. À l'heure où on parle, il y a rien, quoi. Il y a des hypothèses.
Puis même, c'est quand même... c'est vrai que... Il y a des accidents en F1, mais t'as des accidents du fait, et c'est paradoxal, du fait de manque de connaissances, t'as très peur. Parce que, bon, quand nous, on a fait l'article sur Fan F1, c'est vrai qu'au début, on avait quand même assez peur, parce que toutes les nouvelles qui parvenaient étaient de plus en plus dramatiques. Et t'as une espèce de surenchère dans le dramatique qui est constamment, comme tu dis, c'est constamment alimenté par, en plus, le fait que c'est des informations qui sont basées sur rien, qui se répètent et qui se dupliquent à l'infini et qui, de plus en plus, sont dramatiques, pour finalement quelque chose qui avait pas l'air aussi dramatique, en tout cas, maintenant, de ce qui nous arrive, ça avait quand même pas l'air aussi dramatique que ça a pu apparaître tout de suite, quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi, mais comme tu dis, une responsabilité des médias dans, c'est global, c'est ce fait de faire un foin pour des choses déjà qui ne sont pas confirmées et surtout pour des choses qui n'en valent certainement pas la peine. Et on a vu sur un certain nombre de sites, alors anglais, français, voilà, se multiplier des articles sur ce sujet-là, faire 3, 4, 5 articles sur ce sujet-là, d'une information qui, au final, n'était jamais parvenu, quoi. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant. Je trouve ça un peu dommage, parce que mine de rien, tu ne fais pas que te faire plaisir en écrivant des articles. Tu informes des gens. Et si tu informes des gens d'une manière qui est quand même assez peu, sans assez de preuves, sans assez d'informations concrètes, c'est ces gens-là que tu trompes en général. Donc c'est pour ça que je demanderais un peu de prudence, quoi, sur ces sujets-là.
Mais on a vu un exemple récent qui nous concerne un peu tous, puisque c'est l'équipe de France de football, où on a fait énormément de bruit, et je trouve qu'on a fait un énorme procès à l'équipe de France de football et compagnie, en oubliant derrière que finalement, qu'est-ce qu'on avait? On avait que des bruits de couloir, on n'avait que des choses qui étaient quand même des affaires de vestiaire, sans se demander, est-ce que c'est naturel que j'ai accès à ce genre d'informations? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est attesté? Et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à juger, à prendre fait et cause contre certains joueurs et compagnie, sans véritablement savoir tout ce qui s'est passé. Enfin, je prends l'exemple de Nasri, tout le monde est tombé à bras raccourcis sur Nasri, en oubliant le fait qu'il a aussi été cherché par des journalistes, que ça se met aussi dans un contexte beaucoup plus long. Donc on est vraiment dans, on prend des extraits d'infos et on monte la mayonnaise autour. Et c'est à la fois la responsabilité des médias, donc de nous, hein, directement, mais aussi la responsabilité du lecteur qui aussi joue à ce jeu. Et c'est vrai que là, on le voit dans les commentaires de Fan F1 sur l'article de Maria Villota, il y a beaucoup de spéculations autour. Ouais. La spéculation, elle est normale, mais c'est vrai que parfois, il est nécessaire de aussi savoir retenir une information et de dire, bah, écoutez, pour le moment, on ne peut rien vous dire parce qu'on n'a rien d'officiel.
C'est ça.
Mmh. Et ça, c'est un problème général, mais je dirais sur tous les médias. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer certains de nos concurrents, mais le nombre de sites qui font 20, 30, ouais. 40 articles dans
oui,
la journée,
pour un truc.
Même des fois des articles pour un même thème, ils prennent un même article et ils le divisent en différentes séquences juste pour faire du chiffre, des vues, etc. Voilà, par moment aussi c'est bien de prendre une certaine unité, de prendre le temps de se dire on va prendre un peu de recul, on va d'abord attendre de voir comment l'information va se décanter, parce que des fois on l'a tous expérimenté nous chez Fan F1 en commençant à faire un article, on se dit tiens je vais faire cet article là et puis on n'a pas le temps de le faire tout de suite donc on attend quelques heures et boum, quelques heures après il y a un autre truc qui est venu qui vient enrichir l'article et qui offre tout un autre regard. Et des fois c'est deux trucs qu'on peut mettre dans un même article mais qu'on retrouve dans deux articles différents et où ça a pas du tout ça raconte pas du tout la même histoire, parce que du coup derrière faut que le lecteur fasse l'effort d'aller chercher les deux articles, de recroiser lui-même, etc. Alors que si par moment on prend un peu de recul et qu'on fait tout ensemble et que vraiment on fait un vrai travail d'information en prenant le temps sans être dans l'immédiateté, là tout d'un coup on arrive à quelque chose qui je trouve beaucoup mieux.
Amen. Messieurs, on passe à la suite avec deux actus qui sont un peu liées, vous allez voir. Alors la première, c'est l'affaire Grippe.
C'est Romain Grosjean et Marion Joliette, non?
Ah non, et on n'en parlera pas, je vous le dis tout de suite.
Pourquoi on n'en parlera pas, Judy?
Parce que personne n'en a parlé, donc on n'en parlera pas.
Ah, Judy, ça se trouve, j'ai une citation là-dessus.
Mais ça pose quand même la responsabilité.
Vous le ferez au moment des citations, hein? D'accord? On va parler d'abord de l'affaire Grippe.
Ah, ma citation, c'est oui, je le veux!
Ah! Oh. Tais-toi! On va parler de l'affaire Grippe-Gowski. Épée de Damoclès pour Ecclestone.
Oh. Ah, elle est bonne.
C'était le titre, hein? Moi, je l'ai repris, hein? C'est...
Non, c'est même pas le titre.
Ah, je sais pas, parce que c'est comme ça que je sais plus qui me l'a...
C'est moi, j'étais fantaisiste aujourd'hui.
Ah oui.
Alors Dino, parle-nous de l'affaire Grippe-Gowski.
Ah non, bah, j'ai lu tout l'article.
Bah, si.
Non, mais voilà, c'est... Donc il y a eu cette fameuse histoire pour... je sais pas trop, pour corruption et compagnie avec un banquier... Lors du passage de CVC ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas trop enquêté non plus. J'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse que moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est les potentielles conséquences.
Oui, voilà. Je pense que.
Et il se trouve que apparemment, Bernie Ecclestone a donné de l'argent à ce fameux Gerhard Grippe-Gowski pour taire certaines choses. Et donc la justice allemande, si je me trompe pas, pourrait, après avoir condamné Grippe-Gowski à 8 ans et demi de prison, pourrait s'intéresser maintenant à Bernie Ecclestone et enquêter là-dessus.
Et pas que la justice allemande en plus, parce que le deuxième volet, c'est que sa ligne de défense dans cette affaire à Bernie, c'est de dire qu'il a donné l'argent à Grippe-Gowski parce que Grippe-Gowski lui a fait du chantage. Le chantage de révéler que c'était Bernie et pas sa femme qui gérait la société de sa femme.
Oui.
D'ailleurs, c'est une ligne de défense assez étrange parce que c'est confirmer la thèse que c'est bien sa femme qui qui contrôle pas sa propre société. Donc, du coup, oui. Il pourrait s'attirer les fautes de la justice britannique en même temps que de la justice allemande.
Du fisc britannique aussi, non?
Oui, oui, c'est ça. Le fisc plus que de la justice.
Oh, c'est quoi ça? Quelques magistrats de plus.
Mais de toute façon, c'est Bernie. On sait bien qu'il va passer entre les mailles du filet. Hein.
Oui, d'ailleurs. Oui. Non mais c'est vrai qu'il va passer entre les mailles du filet. Maintenant, c'est qu'il faut reconnaître malgré tout que de mémoire, jamais Bernie Ecclestone n'a été potentiellement autant menacé que par cette affaire-là.
Du coup, il a très bien joué le coup en sortant le Grand Prix de Londres.
Eh bien, justement, oui. C'est l'autre actualité que vous voyez. Et c'est un peu lié. Non, fais pas la gueule, Fab.
Tout est lié, j'ai dit. Ah, tout est lié.
Enfin, je l'aime bien.
Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette semaine, l'actu dont tout le monde se fout, ça va être une spéciale Fab.
Ah, je pense pas, non. Alors, si tout le monde se fout de mes actus, dis donc.
Non, je pense pas. On verra.
Je pense que Steph Kerr reste le favori.
Ça t'a l'air chaque fois sur toutes les actus.
Oh bah, ouais,
avec ce magnifique titre aussi de Dino, parce que tu sais, moi, je fais que copier-coller, ce que vous m'envoyez par mail. Le fantasmatique Grand Prix de Londres.
Oh là 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 là.
Alors, moi, je propose une chose, je propose à tous nos auditeurs, hein, parce qu'après tout, puisque n'importe qui peut proposer un Grand Prix, eh bien, dans les commentaires, de l'article, faire leur proposition de Grand Prix. Si vous avez un parc chez vous, une ville,
appartement,
une baignoire, un appartement.
On a bien parlé d'un Grand Prix de Formule 1, Armand, je dis, hein.
Justement,
je te rappelle quand même les tracés.
C'est bien la preuve que n'importe qui propose des Grands Prix de F1.
Mais apparemment, c'est facile de proposer un Grand Prix. Il suffit de faire un procès à Bernie Ecclestone, il va te sortir les plus gros Grand Prix possibles pour noyer le poisson.
C'est aussi un peu beaucoup la faute à Vodafone. Hein. C'est pas que Bernie.
Non, Santander.
Santander, oui. C'est l'autre sponsor. Attention. Pardon. C'est l'autre.
C'est peut-être même le dernier de McLaren. Apparemment, Vodafone n'est pas sûr de... Ils vont réfléchir.
Donc Santander qui nous a fait ces magnifiques vidéos en 3D. Ouais, génial, des lignes droites au beau milieu de Londres où on pourra pas dépasser, mais voilà.
Oh non, il y a des beaux passages. Oh, moi, j'aime beaucoup ce circuit.
Ouais, ouais, la fin est quand même belle.
Juste pour le plaisir de passer Trafalgar, moi je le prends, tu vois. Mm. Et l'arche de l'amirauté aussi. Ça, c'est un
peu. Ah, oui, le truc, le rétrécissement avec l'arche, c'est couillu, ça, de proposer.
Ah, bah là, ouais. S'ils arrivent à d'autres fronts, là, on saura.
Là, il faut pas passer à côté de Maldonado. Ah
bah. Non, mais l'idée, tu vois, ça serait de garder les trois arches, et que les mecs pourraient choisir. Au milieu, tu mettrais un bonus, tu vois, comme dans Mario. T'aurais quoi? Si tu passes
au
milieu,
tour,
c'est le TRS. Si tu peux, voilà. Et à chaque fois, t'aurais un truc différent. Dire, carapace bleue. Voilà.
Des bananes.
Ah mais faut quand même rappeler que
il veut pas faire le truc, mais il a dit que c'était un projet intéressant.
Et non, il a dit qu'il était ouvert, oui, s'il y avait un projet, qu'il était ouvert, mais qu'il y avait certaines conditions. Et c'est bien ça qu'il faut rappeler, c'est que ça reste vraiment un coup de promotion de Santander avant le Grand Prix, puisqu'ils sont aussi sponsors, ils sont sponsors de McLaren, de Ferrari, mais aussi de plusieurs Grands Prix, dont le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est un énorme coup de com' de Santander avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Voilà, je pense que derrière, il n'y a pas véritablement de projet réel, même s'ils ont traité la chose réellement, c'est-à-dire qu'ils sont très fiers de dire qu'il y a 27 000 arbres et qu'il n'y aura pas un arbre qui sera touché par le Grand Prix et compagnie. Derrière, on ne va pas aller vérifier, puisque le Grand Prix ne se fera pas, puisque de toute façon, ils n'ont pas non plus l'ambition de le faire.
Il y en a déjà un à Silverstone, rappelons-le.
Oui, et qui a eu un contrat de 17 ans, quelque chose dans le genre. Donc,
Oui, mais le Grand Prix d'Europe, il sera libre.
Oui.
Mais il y en a d'autres, n'oublie pas, qui sont sur les rangs.
Ah oui, la Thaïlande. Mais bon.
Le Grand Prix d'Europe en Thaïlande, c'est pas de
c'est génial, ça.
C'est vrai, c'est audacieux. Non,
même si c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'Européens en Thaïlande.
Non, c'est encore un projet de plus, voilà. Enfin, projet. Voilà, c'est
non,
un coup de pub.
C'est même pas un projet.
Oui, voilà, c'est un coup de pub.
Un exercice. Enfin,
c'est un coup de pub, c'est un exercice de style.
Bien
voilà,
fait,
c'est
bien fait.
Après, ça peut peut-être effectivement accoucher sur... on sait qu'il y a un questionnement, comme toujours avec les Jeux Olympiques, sur la reconversion des sites olympiques. Ça peut peut-être accoucher sur une réflexion, l'éventualité de transformer le parc olympique en circuit de Formule 1. Voilà, mais en dehors de ça, ça reste quand même, aujourd'hui, c'est le centre-ville de Londres, c'est les beaux monuments de Londres. Sincèrement... Même si ça reste faisable techniquement, il y a quand même beaucoup de choses à convaincre, beaucoup de choses à faire derrière pour que ça passe. Donc. Oui. Mais ça peut peut-être faire germer une idée
à
Londres.
Par contre, il y a peut-être plus de chances que ça se fasse à Sochi, non? Ils en avaient parlé aussi autour du stade olympique.
Ouais.
Alors le circuit sera autour du stade olympique, mais il est question de...
Ça passe dedans carrément
Que ça passe dans le stade.
Mmh. Parce qu'il n'y a pas encore de tracé défini en fait.
Ouais. Bah, non, il y a un tracé qui est défini, qui contourne le stade, que moi je trouve plutôt pas mal, assez intéressant. Mais après, voilà, en même temps, ça dépend de l'intérêt. Si c'est passé dans le stade, juste pour que les voitures passent dans le stade, je pense que les 40 000 spectateurs vont être super contents. Maintenant, si c'est pour faire une chicane avec un gros freinage, un endroit spectaculaire dans le stade, où que là, les gens pourront aller vraiment dans le stade et auront sûr du spectacle, là, oui. mais vu la configuration du stade et compagnie, j'arrive pas à voir comment, avec le tracé actuel, enfin le projet de tracé qu'ils ont, comment ils vont réussir à faire un truc à peu près spectaculaire à cet endroit-là.
Sachant qu'il est prévu, enfin c'est la même année que les jeux. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que les jeux sont en février, et on imagine que le Grand Prix de Russie aurait lieu l'été, quoi. Donc,
Mais c'est des jeux d'hiver.
C'est pour ça, les jeux sont en février.
Mais ils vont faire quoi dans le stade si c'est des jeux d'hiver?
Bah, c'est standard, bah, c'est standard pour c'est un stade ouvert,
stade de foot. Là, c'est le stade.
Oui, ça va devenir un stade de foot. Ah, après, ça va être un stade de foot. Ça sera l'un des stades du mondial russe. Ils font une pierre deux coups, en fait. C'est d'accord. Le stade olympique et derrière, ce sera aussi un stade pour la Coupe du Monde en Russie. Mais théoriquement, il y aura pas d'épreuves dedans. Enfin, il y aura juste les remises de médailles et compagnie, mais il y aura rien dedans.
Les jeux d'hiver, il y a des trucs qui se font en intérieur, comme justement tous les sports de glace, c'est pour ça.
Oui, voilà. Mais là, c'est un vrai stade, qui est pas couvert.
Oui.
À la forme d'un œil, ça fait un œil quand tu le regardes sur le dessus.
Big Brother Watching You.
Voilà. Les stades, souvent, ils ressemblent à des yeux, ou des œufs, ou...
Non, mais là, un vrai œil,
des œufs.
Donc c'est un débat très intéressant auquel nous avons...
Sur la forme des stades. Passons à une autre thématique globale qui regroupe deux actus. On va parler de Red Bull. Alors d'abord avec Sébastien Vettel qui a été rappelé à l'ordre pour son comportement.
Ah, je l'ai oublié, ça, merde.
Oh, mauvais.
Et Fab, vas-y, allez, c'est à toi.
Attends déjà, pourquoi moi? Pourquoi moi plus que les autres, déjà?
Je sais pas, t'avais l'air de...
Ça s'est vendu le grand capital
sur Vettel.
Je cite comportement de Vettel.
C'est ce que j'ai mis?
Oui.
Ah ouais?
Parce que, à part que si c'est pas ça, je comprends pas pourquoi t'as mis comportement de Vettel, c'est pour ça.
Oui, mais non, mais c'est toute cette polémique. Enfin, cette polémique, c'est bien un bien grand mot pour ce que c'est, mais déjà sur ce qu'il a déclaré lui. Bon, le fait qu'il soit mécontent juste après, bon, ça c'est vraiment pour le coup, il fait ce qu'il veut, il jette ses gants, il fait ce qu'il veut. Enfin, vraiment, là on est vraiment dans le moins que rien au niveau de la polémique. Mais c'est après les propos qu'il a tenus sur le safety car. Bon, le premier safety car, je veux dire, là c'est quand même faire preuve d'une mauvaise foi que de dire qu'il n'était pas nécessaire. Oui. Par contre, je le rejoindrai quand même. Sur le safety car, c'est sur le deuxième safety car qu'aurait dû sortir. Parce que autant moi ça m'étonne que l'attention se focalise sur le premier safety car où il y avait des débris qui jonchaient la piste. On veut dire à un moment se poser la question si ce qu'il fallait sortir ou pas, c'est quand même une hérésie. Mais
c'est même étonnant qu'il n'ait pas sorti plus tôt.
C'est ça. Oui, ils ont mis le temps en plus. Mais donc déjà on peut pas tellement les accuser d'avoir. Enfin bon voilà. Mais surtout qu'il n'ait pas sorti la deuxième fois, parce que la deuxième fois on a quand même tous vu les images des quatre pauvres mecs qui, excuse-moi, poussaient la voiture de Vettel le long d'un mur dans des courbes. Qui était, on va dire, assez rapide. Là, à mon avis, il y avait quand même un critère de dangerosité qui aurait pu justifier que le safety car sorte à ce moment-là. Pourquoi ils ne l'ont pas sorti? Bon, visiblement, personne n'a cherché d'explication, parce que c'était sans doute plus intéressant de s'intéresser à Vettel. Mais sur ce plan-là, je peux... Enfin, à mon sens, il n'attaque pas le bon safety car, mais après, ça reste des broutilles. Enfin, franchement, c'est...
Mais même globalement, moi, je trouve sur la paranoïa de Red Bull actuellement.
Alors justement, c'est l'autre actu.
Je trouve que sur cette paranoïa de Red Bull, en même temps, c'est très instrumentalisé par Helmut Marko. Il en joue beaucoup parce que c'est un fin politicien. Il a beau dire qu'il aime pas la politique en Formule 1, c'est un fin politicien et il sait très bien manier la com. Maintenant, c'est vrai que quand tu réfléchis un peu, moi, c'est vrai que tu dis, il y a quand même par moment de quoi être paranoïaque. C'est-à-dire que on peut pas contester que sportivement, on a tout fait pour leur couper les ailes.
Bien sûr.
Que mine de rien, depuis plusieurs semaines, on ne parle que de Red Bull. Techniquement, on ne parle pas des autres. Alors après, est-ce que c'est parce que la FIA s'y intéresse seulement? Est-ce que c'est parce que il y a que les médias qui s'y intéressent? Je pense quand même qu'il y avait eu un vrai problème de conformité d'une autre voiture, on en aurait parlé malgré tout, que ce soit sur Ferrari, Mercedes et compagnie. Que il y a en plus l'affaire du drapeau jaune avec le DRS qui laisse à penser du côté de chez Red Bull de dire ah il y a des différences de traitement, même si ce qu'avance Charlie Whiting est tout à fait compréhensible et j'adhère totalement à son explication, je la comprends et tout, mais c'est vrai que tu dis en même temps ils sont peut-être paranoïaques, mais il y a aussi des raisons d'être paranoïaques.
Oui, oui, oui.
Maintenant
oui,
de là à penser que derrière on leur sort exprès une safety car pour pas qu'ils gagnent pour relancer la course. Il y a quand même des limites.
Ça, le règlement, ils ont pas tort.
On sait que ça se fait aux États-Unis. Maintenant, enfin voilà, la Formule 1 n'a pas non plus la mentalité américaine. Si c'était vrai, ça serait très grave parce que ça serait un changement de mentalité en Formule 1, mais vraiment du tout au rien en quelques courses, quoi, puisque.
Mais techniquement, c'est vrai que Red Bull focalise vachement plus l'attention que les autres, parce que si tu regardes cette histoire de système de freinage modifié, on a vu à Valencia la semaine dernière des photos de la McLaren du système de freinage, où on voit bien qu'au final, les trous, ils ont été modifiés de la même manière, ils ont bouché le trou rapidement avec du mastic, ils ont été aussi touchés que Red Bull dans sur cet élément-là, et personne n'en a parlé. Parce que personne a vu, s'est trop penché pour voir quelles autres écuries ça touchait, et au final, il se révèle que même McLaren, ça les a touchés, et c'est passé comme une lettre à la poste.
Mais c'est vrai que souvent Red Bull sont premiers, mais c'est la conséquence logique. Ce sont souvent les premiers, en tout cas, qu'on montre en tant que innovateurs. C'est le revers de la médaille de Niue. Ils font des tas d'innovations, donc forcément, ils sont plus susceptibles.
Ouais, mais le problème de la Formule 1, ça a toujours été l'histoire de domination. Je veux dire, la domination Ferrari a pas été tuée dans l'œuf. Je veux dire, en 2002, on aurait pu très bien décréter que ce qui donnait des avantages à Ferrari, c'est différent parce qu'il y avait les essais privés, donc c'est quand même une certaine différence entre les époques. Là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui sans les essais privés.
Mais c'est vrai qu'on a agi moins fort.
On a agi moins fort et puis ça s'est fait.
Parce que quand on regarde Red Bull, on a quand même déjà essayé l'an dernier à Silverstone, oui. Il y a tout juste un an, de leur couper le soufflage alors que c'était eux qui en profitaient le mieux, oui, avec Renault. On l'a fait finalement à la fin de la saison. Là, on a refait les trous et compagnie. C'est-à-dire qu'on a quand même vraiment fortement adapté le règlement de cette année pour leur couper les ailes. Chez Ferrari, c'est l'époque de Ferrari. Il a vraiment fallu du lourd pour qu'on se mette à changer de règlement de façon radicale, quoi, pour interdire une innovation.
Et encore, on changeait surtout le règlement sportif à l'époque Ferrari.
A changé. C'est quoi la grosse mesure pour contrer Schumacher? C'est le changement du
carrément,
barème de points.
La barème de points, les modes de qualification, enfin c'est tout qui passait.
Et les pneus aussi.
Les pneus, c'était. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on accepte beaucoup moins. Déjà, tu vois les réactions de tout le monde, tu vois, 20 secondes, ça fait peur, c'est effrayant, tu sais, on accepte moins. Alors, c'est bizarre pourtant, parce qu'on a quand même une saison, on peut pas dire que c'est une saison chiante,
C'était justement la dernière actu, j'avais nommé, mais on a commencé à en parler, c'est pour ça que les deux actus étaient liées, il y avait celle sur Vettel et celle sur plus Red Bull, que j'ai nommé des paranoïaques qui recommencent à faire peur, pas parce qu'ils sont paranoïaques, mais parce qu'en effet, au niveau des résultats, on a vu, c'est notamment Ferrari qui commence à s'inquiéter parce que, en effet, s'il n'y avait pas eu le problème d'alternateur, la course elle était très différente la semaine dernière.
Mais après, je pense que c'est aussi, il y a un vrai changement de mentalité et c'est un peu ce que je craignais. Je l'ai exprimé il y a quelques courses. C'est vrai que, comme tu le dis, Fab, un écart de 20 secondes pour un vrai fan de Formule 1 qui suit ça depuis plusieurs années, dizaines d'années, il n'y a vraiment pas de quoi effrayer un chat, quoi. 20 secondes, on a quand même connu des courses où le mec, il avait quasiment un tour d'avance sur le deuxième, et on a eu, et ça fait aussi partie de ce que représente, selon moi, et de ce qu'est, selon moi, la vraie nature aussi de la F1. Totalement. C'est que, moi, j'ai déjà dit, voilà, s'il y a du spectacle, il y a du spectacle, si jamais il y a une domination, il y a une domination, le but aussi, c'est qu'à la fin, le meilleur gagne.
Oui, voilà.
Maintenant, c'est vrai qu'on sent quand même aujourd'hui qu'il y a un changement de mentalité, et c'est ce que je craignais il y a quelques courses que j'avais exprimé et que je m'en étais défendu un peu sur le titre, c'est que on se saisisse aujourd'hui de la magie d'avoir cette course avec 7 vainqueurs différents, cette course et compagnie, qu'on se saisisse un peu de ça pour dire c'est ça que doit être la Formule 1. On veut de la Formule 1 spectacle comme ça, et donc effectivement, on peut pas venir après se plaindre d'une éventuelle dérive à l'américaine qui consisterait à mettre des safety cars et à relancer la course quand ça nous intéresse. Puisque c'est un peu le sujet du débat que suscite Red Bull en disant on l'a sorti pour des débris, on l'a pas sorti effectivement comme tu le dis Fab derrière. C'est peut-être la concrétisation que aujourd'hui cette Formule 1 elle plaît et que cette Formule 1 là on veut essayer de la pérenniser et on le voit avec les pneus, on le voit avec Bernie Ecclestone qui veut faire des grands prix spectacle, l'apparition de plus en plus de circuits urbains, de projets de circuits urbains, etc. Je trouve que c'est un vrai mouvement et peut-être on verra peut-être dans quelques années, mais je trouve que c'est un vrai tournant peut-être même de l'histoire de la Formule 1 vers une Formule 1 qui est davantage de spectacle. Et c'est un débat que moi vraiment que je veux poser depuis plusieurs semaines parce que voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est ça la Formule 1? Moi, j'entends beaucoup de gens dire c'est génial et compagnie, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas véritablement fans de Formule 1. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont fans de sport auto, qui regardent l'IndyCar, qui regardent le rallye, etc., et qu'ils aiment le spectacle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont, que les gens qui sont spécifiquement fans de Formule 1 attendent autre chose, quelque chose de plus sportif, tout simplement.
Oui.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais de toute façon, enfin, après, je pense que Gus Gus l'expliquerait mieux, mais toutes les règles qui sont faites contraignent absolument l'innovation, contraignent la recherche, la recherche de l'innovation, et tendent à rapprocher les voitures, et le rapprochement des voitures, le nivellement des niveaux, alors c'est, ça fait des courses plus spectaculaires, effectivement. Après, comme tu le dis, la F1, au départ, c'est la recherche de la performance, c'est quand même associer des ingénieurs de génie avec des matériaux de pointe pour essayer de créer les voitures les plus rapides. Je veux dire, la domination de Ferrari au début des années 2000, c'était la concrétisation de cet idéal-là. Et c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais ça a sans doute, et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était très palpable, ça a sans doute créé deux catégories, c'est-à-dire la catégorie de ceux qui... Alors effectivement, ils s'amusaient peut-être pas devant une course, mais pour eux, c'était ça la Formule 1. C'était la recherche de la performance, c'était voir des pilotes qui, au volant de la meilleure voiture, alors avaient peut-être une avance abyssale sur les autres, mais étaient capables d'enchaîner les meilleurs tours sans avoir à se préoccuper de la gestion des pneus, sans avoir à se préoccuper de la gestion du moteur. C'était ça l'idéal de la F1, et à mon avis, c'est ça l'idéal de la F1. Je suis pas forcément contre le spectacle, encore une fois, mais le spectacle à bon escient. Il y a eu du spectacle avant, dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, on voit bien ce resserrement du niveau qui fait que, alors d'un côté, sur un grand prix, parce qu'il fait chaud, alors t'as des voitures plus performantes, parce qu'il fait froid, t'as des voitures plus performantes, parce qu'il y a moins d'appui, machin. Bon, à un moment, faut quand même se rendre compte qu'on n'est pas non plus dans une loterie, on est dans un sport rationnel où le hasard, l'irrationnel a aussi sa part. Mais il faut pas que le hasard, l'irrationnel ait une part trop grande, laisse trop d'importance à cette part-là dans un sport qui est quand même un sport de recherche de vitesse, d'innovation et pas un sport, c'est pas la Super League Formula, c'est pas le GP3, il faut quand même aussi se rendre compte qu'on parle de Formule 1, on parle pas d'IndyCar, c'est pas les mêmes mentalités.
Mais tout à l'heure, on parlait de la safety car. Moi, sincèrement, la gestion de la safety car pendant la course de F1, elle a été aussi calamiteuse que pendant la course de GP2. J'ai pas vu une différence de qualité. Alors, voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on nivelle un peu la Formule 1 vers le bas, alors que c'est vrai que j'ai peut-être une vision un peu plus, peut-être un peu plus élitiste, peut-être un peu plus technique, peut-être un peu plus experte de la F1. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui,
il y a aussi quand même de grandes variations entre les circuits. Il y a quand même des circuits où ils sont franchement moins bons que d'autres. Et à Valence, franchement, ils sont pas terribles.
Oh oui, mais ça participe de tout ça.
Non, mais la voiture sécurité, c'est pas les commissaires de Valence qui décident. C'est le directeur de course, non? C'est le directeur de course. Donc c'est Charlie Whiting qui est là sur tous les circuits. Et ce sont des commissaires FIA qui sont régulièrement les mêmes, qui sont généralement des présidents de fédération ou des membres importants de la FIA. Et d'anciens pilotes. Donc c'est quand même des gens sérieux qui sont là.
C'est tout. Alors peut-être par rapport à Red Bull, vous pensez que ça a été très ponctuel ou que, en effet, il faut s'attendre peut-être à un été bleu et rouge?
Moi, tu sais, je l'ai dit dans la dernière mission. Moi, je m'attends à ce qu'on en bouffe jusqu'à la Hongrie.
Là, on va en souper.
Mais le pire, c'est que ça me ferait très plaisir, en fait. Parce que, je sais pas, j'ai besoin de ça. C'est terrible. J'ai besoin de me faire du mal, mais je pense que, bon, déjà, je pense qu'ils ont quand même une sacrée, ils ont des innovations qu'ils ont mis sacrément en avant. Comment dire?
Mais comment tu l'expliques, toi, Gus Gus, le bond en avant là qu'ils ont fait?
Leur solution des échappements. Alors, je devais en parler dimanche, mais la chronique est pas sortie, on a dû reporter. C'est une belle synthèse en fait de toutes les solutions qui sont sorties d'ici là. C'est un mélange de la solution de McLaren, de la solution de Sauber et de la solution avec leur propre solution avec le tunnel. Et ça a tous les avantages. Ils ont essayé de gommer le plus possible les inconvénients. Donc ils ont donc le fameux tunnel qu'ils avaient d'habitude. Ils ont le trou de McLaren. Le McLaren, il y a la bosse et donc en dessous il y a un grand passage d'air. Et la rampe de lancement qui dirige les gaz d'échappement vers les côtés du diffuseur pour éviter que l'air qui est sur le dessus il passe en dessous. Les fameuses fuites dont je parlais dans la chronique dimanche. Ouais. Donc du coup t'as l'air qui fuit pas sur les côtés, t'as l'air qui passe sous la bosse qui va dans le diffuseur et donc qui améliore son efficacité Et donc t'as les échappements, le flux des gaz qui fait que le diffuseur il est étanche. Donc le diffuseur il est alimenté par le dessus et le dessous fuit pas. Donc au final l'efficacité elle est maximale. Et il y a pas d'autres écuries qui pour l'instant ont la même solution dans ces cartons.
Et donc du coup là on a vu l'écart à peu près de 3 dixièmes en qualification et beaucoup plus grand apparemment en course à Valence. D'après toi sur un circuit comme Silverstone, ça devrait faire encore plus mal.
Oui, parce que c'est un circuit qui a des virages beaucoup plus rapides. C'est encore plus efficace dans les virages à haute vitesse. Donc ça pourrait faire très mal. Après, on sait que les pneus ont quand même une grosse importance cette année. Donc rien n'est joué. Il faut que quelque part ils aient pas de soucis de pneus dans les faibles températures comme on a pu voir par exemple en Chine.
Ouais. Mais si on va passer aux autres actus.
Vous n'avez pas un truc à dire, Fab?
Non. Non. Enfin, à moins que... Oui, Fab.
Non, non. Non, non.
Comme j'ai vu que tu étais en train de chercher ce que tu disais, je me suis dit...
Ouais, bah écoute, c'est parti, c'est parti.
Excuse-moi, dans ce cas.
Je ne crois pas que je me retrouverai ce soir.
Très bien. Eh bien, on va commencer avec Dino, qui nous a proposé quel avenir...
De quoi? Ah oui, on passe aux actualités.
Ah oui, à moins que tu... Non, c'est bon, on peut y aller?
Oui, oui. Non, j'ai eu peur. Il me parle. Qu'est-ce qu'il peut?
Parce que la première que je vais citer, c'est une que tu as donnée. Quel avenir pour Heikki Kovalainen?
Oui.
Serait-il déjà en danger?
Non, mais parce qu'il a expliqué cette semaine que son contrat donc s'arrêtait à la fin de l'année et que pour le moment il était en négociation avec personne, ni avec d'autres équipes, ni avec lui, ni avec Caterham, et que il excluait pas la possibilité d'être de revenir dans une équipe mieux classée que Caterham.
Ça va être dur.
En sachant qu'il a clairement dit que pour le moment, pour lui, il faut d'abord attendre pour vraiment pouvoir que lui réfléchisse vraiment sérieusement à ses options. Il faut attendre de savoir ce que vont faire à la fois Michael Schumacher et Lewis Hamilton et que tout dépendra de ça. Maintenant, vous connaissez maintenant ma passion pour ce pilote. C'est un pilote que j'adore et j'aimerais vraiment le revoir dans une écurie compétitive. Parce que je trouve que malheureusement, il fait des trucs super en ce moment chez Caterham, déjà l'an dernier. Et malheureusement, on le voit pas.
Sinon, j'ai cité Spa qui veut prolonger avec la F1, mais sans alternance. C'est de façon en loose day parler aussi du Grand Prix de France, mais surtout, voilà. Alors que quand même tout le projet reposait quand même sur une alternance, les Belges disent non. Comme quoi, c'est vraiment quand même un projet qui sent plus que le sapin.
Ils disent non parce que je pense que la France commence
ils en ont marre. Oui, voilà.
Voilà, clairement, aujourd'hui, la France ne travaille pas sur un projet d'alternance.
Non, oui.
Non.
Ils écartent pas l'éventualité, mais ils sont même pas déjà. Enfin, on a déjà du mal à savoir sur quoi ils travaillent.
Oui. Ils savent pas quel circuit, rien. Enfin, c'est. On comprend pourquoi ça s'est pas signé aussi vite au mois de mai. Sinon, Fab, tu nous as cité le spectacle en F1, DRS, pneus Pirelli, mais pas que.
Ah, voyez, non mais
un article funf1.com.
Voyez, oui. Et voyez, là où je suis fort, c'est qu'on en a quand même parlé. Quoi.
Ouais. C'est vrai.
Et ouais, les gars.
Quel talent.
Attendez, la cravate.
Oui, que tu as de fort belles d'ailleurs.
Ah oui. Un peu courte.
Rassure-moi, tu n'as pas l'intention de devenir notaire.
Croque-mort. Parce que les croque-morts.
Oui.
C'est rare la cravate de croque-mort.
Surtout aussi sortillante. Faut expliquer quand même, faut expliquer aux gens.
Oui, parce que même à l'intérieur de l'équipe, on n'en comprend pas.
Bah, a mis sur Facebook une belle photo de lui en costume, un magnifique costume noir, chaussures noires et tout, avec une très belle cravate couleur parme perle. Je sais pas. Voilà, c'était un peu brillant.
Ça prouve que la photo est pas si belle, hein, parce qu'elle est grise.
Elle est grise. Ouais. elle est très brillante, ça fait très joli et voilà, c'est notre petit Fab est très classe avec son petit costume.
C'est gentil, ça me touche. Cette photo sera disponible sur FanF1, on fera un article, vous inquiétez pas. Gus fera un article technique sur le nœud de cravate.
Non, je dois reconnaître, c'est Dino qui a de la merde dans les yeux, c'est pas Parme, c'est gris.
J'ai dit Parme perle. Oh,
de toute façon, il a dit belle photo. Elle est floue, en plus, elle pixelise, donc.
Non, c'est très beau dessus. Moi, sur ma tablette, elle est magnifique.
Vous me faites peur à connaître des couleurs innommables, là, Parme perle.
T'as jamais regardé. Oh,
il Parme. Quand même, merde.
Le Parme, quand même.
T'as jamais regardé déco.
Ah non. Elle est perle, c'est cool. Moi, je me suis arrêté au rouge, au vert, au bleu, au blanc et au noir. Et au jaune, allez.
Mais ce mec est expert en technique, il connaît même pas les différentes techniques.
Ah, je suis daltonien, faut dire aussi, alors ça aide pas.
Oh, d'accord. Alors, daltonien, messieurs, ça veut dire qu'il porte une chemise à rayures jaune et verte. Oui, verte et rose.
Sinon, en actu, on a Gus avec plus d'influence pour Renault si Cosworth quitte la F1, point d'interrogation. Renault qui veut motoriser 6, 8, 12, 14 écuries. Hein.
Oui, je trouvais ça intéressant parce que ça sent quand même assez mauvais pour Pure, parce que l'intérêt des autres manufacturiers, c'est justement que Pure rentre pas en F1, parce que ça leur permettrait de plus rentabiliser les investissements qu'ils ont fait. Enfin, c'était plus de ce côté-là que j'avais vu cet article.
Sinon, Gus, un autre article technique, des suspensions avant attirant pour McLaren en 2013.
Oh, c'est l'article boutique, ça, c'est juste, c'est juste que l'actu était tellement riche.
Non, c'est un très bon article, je trouve, parce que, voilà, enfin, une écurie qui a le courage de s'inspirer de solutions innovantes, intéressantes,
qui ne viennent pas de Cyril Boule.
Qui ont prouvé leurs effets, et qui ne viennent pas de Cyril Boule. Voilà, c'est un truc qui est étudié, qui ne vient pas de Cyril Boule, il faut quand même le saluer, c'est rare.
Sinon, Fab, tu nous as cité l'accrochage d'Hamilton et les déclarations de Whitmarsh.
Oui, possiblement.
Il s'est jamais plus de son mail, c'est magnifique.
Est-ce que c'est lui qui a
pourtant fait c'était, c'était un sujet passionnant. Hein.
Oui, bah bon, après, je comprends que...
C'était un peu casse-couille.
Oui.
Il nous écoute.
On le salue, d'ailleurs.
Et enfin, les actus de Steph Core. Hein.
Comme dans ces missions.
Alors, il a cité Button à propos d'Alonso, beaucoup de cirage de pompe. C'est vrai.
J'ai failli le mettre, moi.
Que voilà, c'est pas. Non, ça va.
Mais je suis assez d'accord, en fait, avec Button. Parce que. Enfin, sans déconner, au bout d'un moment, moi, lundi, je me suis dit, mais c'est quand la demande de béatification? Mais dis donc, en fait, la mythologie a un nouveau demi-dieu, il s'appelle Alonso. Oui. Et puis voilà, enfin, je sais pas, moi, mais. C'était. Enfin, je pense qu'il faut se calmer un peu, hein.
Parce que, limite, ces gens ont pas insulté le type qui est arrivé deuxième, et les gens étaient moyennement contents pour le troisième. Alors que c'était un magnifique podium.
Ouais, mais, enfin, puis c'est un peu toujours la même chose. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais enfin, c'est toujours un petit peu, cette immédiateté de l'information. Donc, t'as le mec qui gagne, qui est le génie absolu, on peut tout lui passer, machin. Et puis t'as le mec qui perd, qui est le loser intégral, qu'on peut rien lui passer, quoi. Normalement, un peu de mesure, quoi. C'est pas une victoire, il y a eu des victoires plus impressionnantes que ça. C'est une belle victoire, dans des circonstances délicates, mais il y a eu des, voilà. Alonso est un très grand pilote, certainement le meilleur du plateau, mais à un moment, il faut aussi, et je parle aux fans d'Alonso, notamment, mais aussi à ceux qui sont des anti-Alonso, il faut aussi savoir être raisonnable. Voilà. Mais de côté.
Tu accepteras quand même que, il y a forcément derrière aussi un délai à chaud. Dire que on le voit avec Button.
Non, mais c'est
Button,
une très belle victoire, mais c'est pas Dieu sur terre.
Moi je partage tout à fait l'avis, je l'ai dit pendant le Grand Prix, c'est pas sa meilleure victoire, j'ai vu bien meilleur d'Alonso cette année. Mais, il y a quand même ce délai nécessaire à un moment donné, bah voilà, il faut savoir, quand on perd et quand c'est pas nos pilotes chouchous qui gagnent, se mettre de notre côté en disant on va les laisser un peu profiter de leur victoire. Et après, ce qui est nécessaire, c'est de savoir prendre le recul. Et on le voit là avec Button. Button, il fait ses déclarations une semaine après. Il aurait très bien pu les faire lendemain en disant bah c'est bon, faut arrêter, il y a trop de tirage de pompe. Parce que il a bien compris que au début il y avait la bulle, l'émotion qu'il y avait autour de sa victoire et compagnie, que voilà c'était des belles images et compagnie. Puis il a attendu que ça baisse un petit peu. Et puis en plus c'est même pas lui qui y allait volontairement. C'est plus en lui posant une question qu'il a sorti ça. Donc après c'est pas à dire que, moi, je sais que j'ai connu ce parcours-là. Hein. C'est dès la fin du Grand Prix, j'étais tout ému, j'étais en pleurs. Alonso, c'était un demi-dieu. Puis c'est vrai que peu à peu, au fur et à mesure de la journée, tu digères un peu, tu vois un peu les réactions des autres, tu te refais le film de la course. Et donc, du coup, tu relativises la course. Mais après, ça fait partie aussi du processus normal d'une évocation, à chaud, quoi.
Je remets pas ça.
Quand on regarde les matchs de l'équipe de France, on a très vite trouvé que c'était de la merde à chaud. Puis au fur et à mesure, on avance un peu, on dit ils ont peut-être pas forcément
bien sûr,
contre l'Espagne. Il faut toujours, c'est ça qui est vraiment important, ça comme tu disais, ça se vaut aussi pour les actus, c'est de prendre du recul aussi, c'est-à-dire que parfois bien prendre conscience que il y a l'opinion qu'on dit à chaud, l'opinion qu'on dit au recul, c'est aussi valable sur comment ça s'appelle Vettel quand il sort, faut bien distinguer sur ce qu'il fait à chaud, donc en jetant ses gants, etc., et sur ce qu'il fait derrière en critiquant la safety car, où là normalement il a eu quand même eu le temps de digérer un peu sa défaite, il a eu le temps aussi de parler avec son équipe, et normalement on n'aurait pas dû le renvoyer devant les médias et devant les communiqués avec ce type de discours. Si vraiment on doit accuser par exemple dans les déclarations de Vettel, on doit accuser ces Red Bull. Red Bull qui conforte finalement son pilote. On n'a pas l'impression que Vettel est rentré dans son équipe et qu'on lui a dit, tu tapes pas trop sur le truc, d'accord, tu digères pas, mais voilà, c'est une panne mécanique et tout. On lui a pas expliqué. On a plutôt passé la brosse à reluire. Un peu la même chose qu'on faisait à Hamilton l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, quand Hamilton se gaufrait, faisait une erreur en course. D'ailleurs, on avait Martin Whitmarsh qui venait à son secours et compagnie et on le laissait, on le défendait. Là, aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi de la part de l'équipe une certaine maturité où Martin Whitmarsh sort dans les médias en disant, bah, écoutez, effectivement, il a pas pris la meilleure décision, c'était pas le meilleur truc à faire, voilà, ok. Je dérive un peu, mais
Non, mais t'as raison, mais loin de moi et loin de Button pour le coup.
Non, mais de toute façon, je suis d'accord avec
voilà,
toi.
Voilà, non, mais c'est pas question de voler la joie de la victoire aux partisans d'Alonso, et d'ailleurs la très très belle joie de victoire d'Alonso nous a rappelé des belles images. D'ailleurs, l'article.
D'où la nécessité pour les vainqueurs aussi.
Je vais même te dire un truc, Dino. Tu dis toi-même en tant que fan d'Alonso que c'était pas sa plus belle, mais émotionnellement, pas sportivement, émotionnellement, elle était magnifique.
Oui.
Sinon, Steve Kerr nous a proposé le Grand Prix de New York remis en cause. Bon.
Ouais. C'était pas déjà le cas?
Oui, c'est non, mais ça, là... oui, toutes les deux semaines, c'est remis en cause.
La Bernie a été plus catégorique parce qu'il a dit que pour lui, ça ne se ferait pas.
Avant,
il mettait des doutes et là, il a dit non, ça ne se fera pas en 2020.
On a l'impression qu'il n'en a pas envie de ce Grand Prix.
Ouais, la prison non plus. Il a fait la même réponse. Ça ne se fera pas. En 2020, en tout cas.
Et enfin, Steve Kerr, il est malin parce qu'il se dit qu'est-ce que je fais pour qu'il se foute pas de ma gueule derrière mon dos. Eh bien, je fais de la lèche, puisqu'il a choisi l'aérodynamique pour les nuls en disant que c'était un très bon article. Il était vrai d'ailleurs.
C'est vrai. C'est une très belle chronique.
Merci. Une chronique utile.
Une chronique qui vient compléter la palette de Fan F1.
C'est bon, c'est fini le serrage de pompe. Parce qu'on est toujours un peu dans le même.
Non, je tiens à dire que c'est bien. Théoriquement, la phrase de Button, c'est pas serrage de pompe.
Alors cette semaine, vous voulez qu'on propose quoi aux auditeurs?
Y a pas vraiment d'infos dont on se fout, mine de rien.
Non, parce que même celle
à part Kovalainen, je veux dire, enfin, c'est toujours les.
Et pas je sais quelle est la dont je me fous cette semaine, mais on ne l'a pas citée. C'est le mariage. Voilà. Mais je m'en fous, donc je peux en parler.
Non, on s'en fout pas, je dis. On va être d'accord avec Fab, il y a des vraies questions sous-jacentes. Moi, avec cette question philosophique, c'est est-ce que le mariage rend plus rapide?
Citation après.
Et Fab, j'ai pas de citation là-dessus, je dis quand même, réfléchis.
Bah oui, enfin.
Et Fab, je crois que tu as un axe de réflexion qui est très intéressant.
Hein?
Sur le mariage.
Oui, mais bon, c'est un axe de réflexion global. C'est la collusion entre le monde de la F1 et les médias.
Une collusion. Si vous voyez.
Bon, mais ça, à la limite, je m'en fous. Enfin, bon, ça, c'est une coutume. Bon, c'est très bien que les gens se tutoient en dehors. C'est pour donner un peu de tenue. Bon, allez, ça, c'est pas grave. C'est comme les mecs qui mettent une cravate.
C'est comme nous. Hein. Enfin, moi, je me suis rendu compte dans les commentaires. Il y a des gens, je les vous vois.
Oui.
C'est juste pour la forme, quoi. C'est
une grande famille.
Alors que je dis tu généralement, j'ai le tu très facile.
Oui. Mais après c'est tout un ensemble de trucs. La collusion, il n'y a pas que dans le milieu du sport, mais dans le milieu du sport c'est quand même très 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 pratiqué. On le voit dans n'importe quel, c'est très présent dans le football où c'est quand même un milieu de collusion assez incroyable. Moi ça m'étonne un peu toujours qu'on accepte ça. Après dans la F1 c'est de la collusion. Par exemple, prends l'exemple français, mais je sais pas si vous vous souvenez pendant la course, mais ils ont eu quand même beaucoup de mal quand Vettel et Grosjean ont abandonné à dire que ça pouvait peut-être venir, on ne sait pas, du moteur Renault.
Ouais.
Enfin, voilà. Après moi ça me gêne pas qu'il y ait de la collusion dans l'absolu, mais quand ça t'empêche de faire bien un métier que t'es censé faire, c'est toujours un peu plus problématique. Et le milieu du sport est quand même un milieu dans lequel les commentateurs, en particulier, sont très liés avec les acteurs. Alors, c'est bien pour avoir des informations.
Tu veux parler de Malbranche et d'Hamilton?
Mais Malbranche, non mais,
non mais, ça encore, ça va.
T'as vu là, je l'ai pris en salaud là.
Alors, enfin, je vais te dire un truc, le trio de commentaires de TF1, ils sont quand même, hein, le, à mon avis, le badge Alonso on t'aime est quand même pas très loin non plus.
Oui, mais le badge Lewis, je t'adore. Non, mais je ferais bien l'amour avec toi aussi.
Oui, il est juste à côté de I love le moteur Renault.
La casquette Renault.
Ils ont leur préférence, voilà, mais que ça les empêche de faire bien leur métier, parce que derrière Renault, il y a Total, et Total, c'est une entreprise française qui ont peut-être fait un peu de pub sur TF1, on ne sait pas. Bon, moi c'est toujours ça qui me gêne aussi. Après, je suis peut-être un peu comment vieux jeu, je suis peut-être pour la séparation claire, mais ça, à mon sens, c'est quand même une c'est quand même une gêne quoi. Mais le mariage en lui-même, bon, l'amour, pas non plus, tu sais. Voilà.
Moi, c'est ma question, c'est est-ce que ça rend plus rapide? Est-ce que Grosjean va être plus rapide? Est-ce qu'on peut quantifier le bonheur conjugal? Est-ce que ça apporte hein. En course?
Est-ce qu'il y a
non, ah, nous n'allons pas rentrer dans les faits privés.
Non, on parle de effort là.
Est-ce que ça le rend plus rapide? Ah oui, d'accord. Dans le deuxième secteur de la nuit de noces, il a fait un très bon temps.
Donc sinon, bon, pour le sondage, on fait quoi?
Bon, les actus principales sont pas mal.
D'accord. Ouais. Donc cette semaine, on vous propose quelle est l'actu principale du Mac du 4 juillet. Vous aurez le choix entre le crash de Maria de Villota, Red Bull des paranoïaques qui recommencent à faire peur, le fantasmatique Grand Prix de Londres, l'affaire Gripkowski, une épée de Damoclès pour Ecclestone, ou bien Vettel rappelé à l'ordre pour son comportement. Les titres sont géniaux cette semaine.
Les titres, des fois, ça fait débat, mais là, sur ce coup-là, bravo.
Et du coup, on n'a pas choisi notre actu pourri à nous?
Bah si, vous allez le faire maintenant.
Ah, pardon.
Ah.
Donc je vous rappelle les autres actus.
Les deux premières, s'il te plaît.
Quel avenir pour Yuki Kovalainen? Spa veut prolonger avec la F1 sans alternance avec la France. Le spectacle en F1 DRS pneu Pirelli, mais pas que. Plus d'influence pour Renault si Cosworth quitte la F1. Des suspensions avant à Tyran pour McLaren en 2013. Button à propos d'Alonso, beaucoup de serrage de pompe. Le Grand Prix de New York remis en cause. L'aérodynamique pour les nuls. Et l'accrochage d'Hamilton et les déclarations de Whitmarsh. March.
Moi je dirais Grand Prix de New York, parce que vraiment, ouais. Sachant que les actus sont pas intéressantes, le son, au contraire, avec Grand Prix de New York, c'est juste une petite nuance dans les déclarations de Bernie Ecclestone.
C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé, je crois, donc
Ouais. Allez-y, Fab, dis comme la naine, allez. La démange, allez.
Avec le panache, c'est du panache d'être allé contre
Mitterrand. Non. Écoutez, je vais vous suivre.
Ah,
contre-pied.
Allez, on parlait de faiblesse tout à l'heure.
Contre-pied, les gars.
Bah oui, c'est comme ça. Messieurs, avez-vous pensé à chercher des citations?
J'en ai un paquet, moi.
Bah, tu vas attendre, alors?
Alors, moi, j'en ai une que, là, j'ai découvert aujourd'hui même d'Alonso. Il faut parler à votre ingénieur, changer de vitesse, ajuster le différentiel, charger le SREC, activer le DRS, enlever la visière, regarder dans les rétros, freiner, consulter le temps autour sur le volant, s'hydrater, lire le panneau pour voir combien de tours il reste. Entre tout ça, il faut penser à respirer.
Le SREC?
Ah.
On serait revenu en 2009, là, le strike, tout d'un coup, qui ressort.
Oui. Non, mais je pense que c'est la traduction. Je pense qu'il a dû dire.
Ouais. Toi, t'es allé sur un site concurrent.
Ouais. Traître.
Et je suis comme
un site qui fait des articles en 9 exemplaires différents.
Ah, non.
Des articles de 5 lignes.
Ah, tiens. C'était pas celui-là, en plus. Ouais, mais... Donc voilà, c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est toutes les choses que font un pilote. Enfin, sauf qu'il cite pas piloter la voiture, vous remarquerez. Enfin, si, il dit freiner quand même.
Bah, disons qu'il a un petit peu décrit toutes les étapes qu'il dit de piloter la voiture.
Oui. Mais il dit jamais tourner le volant.
Mais non, mais c'est parce qu'il est dans une ligne droite.
Maria de Villota non plus, il dit jamais tourner le volant.
Et vous, messieurs?
Alors, moi, j'ai une citation d'Alonso aussi.
Ça va faire 3.
Je vous ai dit d'être calme avec Alonso.
Il dit, par le passé, jamais, mais maintenant, chez Ferrari, c'est le cas. Et il répondait à la question est-ce qu'on vous consulte sur le choix de votre coéquipier? Donc auparavant chez Renault, évidemment chez McLaren, il n'avait pas eu le choix, il n'avait pas eu son mot à dire. Et maintenant chez Ferrari, peut-être qu'on l'a déjà consulté pour s'il était ok pour regarder Massa. Et pour 2013, on va sûrement lui demander son avis. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Massa ou pas, parce que Massa.
Moi je dirais c'est une bonne nouvelle pour Marc Webber.
Non mais on sait en plus qu'il a déjà de par exemple donné son veto sur Hamilton, enfin qu'il y a eu la discussion chez Ferrari et qu'il a dit niette. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné quand Alonso te dit niette. Mais je suis étonné, tu crois qu'il a pas choisi son coéquipier chez McLaren?
Ah non.
De toute façon, là, non. Sans être méchant, il a pas choisi chez Renault. Il a pas choisi chez Renault, mais heureusement. Hein. Parce que s'il avait choisi, il aurait forcément pris quelqu'un de plus fort, je pense. Sans être méchant.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mm-hmm.
De toute façon, je pense qu'il s'est même pas posé la question de savoir s'il voulait changer de coéquipier quand il était chez Renault, je pense.
J'ai dit, je vais changer d'équipe directement.
Oui, voilà. Oui. J'en ai marre de ces losers.
Fab, Dino.
Ah oui, pardon.
Dis-toi, Fab.
Ouais. Moi, c'est une citation de Bernie, hein, parce que je pense qu'il faut toujours parler de Bernie. Il a dit, le pauvre gars est emprisonné depuis 18 mois, il dirait n'importe quoi pour se sauver. Non, mais il est génial.
Voyez, il commence sa ligne de défense.
Non, mais c'est bon, franchement. Je l'admire, en fait. Plus j'avance, plus je l'admire.
Mais il nous manquerait. Mais sincèrement, le jour où Bernie Ecclestone meurt, certains vont peut-être se satisfaire qu'il ne soit plus à la tête de la Formule 1. J'essaie de peser mes mots.
Ça laisserait quand même un énorme trou béant, ça c'est sûr.
Mais derrière, oui, voilà, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a des mecs comme lui, comme Loda, comme voilà, comme qui ouvrent leur gueule, et heureusement qu'il y a aussi une nouvelle génération. Enfin, Alonso, moi je vois bien Alonso ou Vettel derrière aussi, quand ils seront plus vieux, donner leur avis est acerbe nécessairement sur la F1 de leur époque, quoi. Voilà, ça c'est. Il y en a besoin, enfin, si t'en avais pas.
Oui, on a besoin, ouais, de. Comme lui.
Sauvons Jacques Villeneuve. Oui, voilà.
Faisons une page Facebook.
Pour que Jacques Villeneuve devienne français.
Oh,
un duo entre Carla Bruni et Jacques Villeneuve.
Un instrumental, quoi.
Ouais.
Ah, bah oui.
Ouais, voilà. Dino, vous t'en avez plein, donc tu vas bien t'en rester au moins une.
Je vais prendre une citation de Lewis Hamilton qui a déclaré « Je pense que j'en discuterai avec Martin Whitmarsh, qui est, au cas où certains l'auraient oublié, le patron désormais. Ron Dennis sera toujours le gars qui m'a embauché et je m'attends à ce qu'il ait un énorme impact dans les discussions avec Simon Fuller, l'agent de Lewis Hamilton. Mais je dois respecter Martin, qui est celui qui prendra la décision. C'est en réponse justement à Martin, à Ron Dennis, qui avait dit que il faudrait que dans la signature du contrat... Bah, Lewis, envoie un peu ses exigences à la baisse à cause de la crise et compagnie. Et moi, j'aime beaucoup la phrase qui consiste à dire « Je rappellerai à certains que le patron, c'est Martin. » À noter aussi que Lewis a... Il y a une autre partie de la citation que où il dit « Les sportifs professionnels changent d'équipe, les footballeurs le font, comme le font les pilotes de course. Jenson Button a été dans de nombreuses écuries, par exemple. C'est différent lorsque vous êtes déjà dans une écurie de pointe, ceci dit. Changer d'équipe serait difficile à faire. » Là, il a dit que pour le moment, il s'occupait pas trop de son avenir, mais que sans doute pendant la trêve estivale au mois d'août, il se réunirait voilà, pour un peu décider.
Très bien.
À savoir qu'il veut garder ses trophées.
Oui, ah oui, oui, c'est.
Et il a dit.
Ça se fait pas chez McLaren.
Il a dit, je vais voir ça avec Ron, mais je pense qu'il sera pas d'accord. C'est pas grave. Je vais l'avoir sur l'argent.
Oui, il a dit qu'il se rattraperait sur l'argent.
Il perd pas de nord, quand même.
Donc, pour finir sur les actus, hein, pour répondre au sondage, bah, si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà répondu, puisque c'est sur l'article consacré au SAV, le mag, donc, du 4 juillet. Si vous n'êtes pas passé par Fan F1, n'oubliez pas, donc, bien évidemment, d'aller sur fan-f1.com. On va passer au répondeur? Ou on va répondre aux questions cette semaine?
Oui!
Ou on va peut-être répondre aux questions cette semaine?
Non, mais faut excuser les chroniqueurs précédents qui déjà sont un peu plus vieux, ça faisait 2 émissions de suite, c'est bon, voilà, faut quand même les comprendre.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors Dino, avons-nous des messages sur le répondeur?
Alors, nous en avons plein. On va peut-être reprendre justement une question que nous avions pas traitée il y a 15 jours, hein, par feignantisme, parce que bon, voilà, on tape sur les anciens chroniqueurs un peu âgés, etc., qui en plus deviennent un peu incontinents avec l'âge. faut raconter un peu la vie de Steph Corr. Et donc, voilà, dire aussi que nous aussi, on a fait un peu nos feignasses, qu'on n'a pas traité les questions. D'ailleurs, c'est pour ça que cette semaine, on a décidé de continuer et de les filer aux nouveaux chroniqueurs. Et donc, nous avons toujours la question de Daniel B, qui nous pose la question suivante. Attention, elle est longue.
Faut la dire.
Ouais, dis-la en entier.
Mais n'encourage pas trop les gens, s'il te plaît, Fab, hein. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri. Je suis un auditeur régulier de votre émission et j'ai fini par acquérir une certaine maîtrise de la science de la course grâce à vous. Cependant, je ne suis pas un héros et je dois bien malgré tout vivre ou survivre en dépit de mon ignorance sur un point qui m'a toujours fasciné dans les courses automobiles, les hélicoptères. J'ai eu l'occasion de monter dans l'un d'entre eux lors d'un rallye en Afrique. Et je m'interroge sur leur rôle en Formule 1. En effet, je voudrais savoir comment sont réglementés les vols de ceux-ci dans des grands prix qui peuvent être en zone urbaine, voire dangereuse, pensons à Monaco, à Port Impérial ou à Bahreïn. Hein. Comment sont-ils, à quoi servent-ils, télévision, secours d'urgence, transport de lunettes de soleil, fumée bleue de Flavio Briatore, voilà des usages imaginables pour ces bolides déserts. Par ailleurs, qu'en est-il de l'usage de ces engins par les pilotes de Formule 1? Y a-t-il parmi eux des passionnés? On a évidemment en mémoire le tragique accident de Colin McRae avec son fils Sabataille, signé Daniel B.
Alors d'abord, j'ai envie de dire bonjour Henri, hein, ou Daniel.
Oui, c'est vrai qu'il a deux prénoms, ce jeune homme.
Bon, tu comprends bien que dans ces conditions techniques, je vais pas faire l'étymologie de ton ou de tes prénoms. Hein. Mais par contre, j'ai attiré ton attention sur le trouble dissociatif de l'identité. Hein. C'est un trouble mental dont le symptôme principal réside dans la prise de contrôle du comportement d'un individu par deux personnalités différentes qui s'accompagnent bien souvent d'une perte de mémoire. Ça devrait t'intéresser, mais plus encore, ça devrait intéresser ton médecin traitant, tes amis et très certainement ta famille. Mais revenons-en au sujet. Tu aimes les hélicoptères. À vrai dire, je te comprends. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de savoir manier les commandes d'un de ces engins, de décoller à la verticale, ou de me délecter du délice d'être rotor. Moi aussi, j'ai été bercé par des séries avant-gardistes.
Ça veut dire Bercy.
Ouais, hein, j'ai été Bercy aussi, hein, mais.
Les masters hélico de Bercy.
Donc, moi aussi, j'ai été bercé par des séries avant-gardistes et fascinantes comme Supercopter avec le grand Ian Michael Vincent, mais aussi avec Medicopter, hein, avec le grand, que dis-je, l'immense Manfred Stuckelweiger.
Il rapporte 29 points, qu'on double.
Au Scrabble, ce qui est très dur à placer puisqu'il n'y a pas 29 lignes. Mais ce n'est pas tout. J'imagine que, comme moi, la carte au trésor et sa visite du Cantal en hélicoptère t'a subjugué. Surtout ces moments délicieux durant lesquels Sylvain Ogier, tranquillement installé dans son hélicoptère, demandait au candidat qui venait de tomber dans un fossé rempli de ronces s'il hésitait toujours entre rendre visite à l'ébéniste de Joux-sur-Montjoux ou aller directement à l'église de Sansac-de-Marmiesse. Enfin, j'imagine que comme moi, certaines après-midi de juillet, terrassées par l'écrasante chaleur et entre deux chasse-patates et quelques musettes, tu t'es laissé bercer par les images de Jean-Maurice Hogg en provenance de l'hélicoptère de France Télévisions, dont la caméra, il faut bien le dire, était braquée sur
la magnifique basilique de Saint-Andoche de Saulieu, un monument construit à la fin du XIe siècle, selon un plan clunisien. Il est, bien sûr, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est formidable, Polo, la science, formidable.
Bref, tu nous demandes tout d'abord comment est réglementé le vol des hélicoptères au-dessus des Grands Prix, et notamment quand on arrive en ville. Ma réponse te décevra peut-être, mais cela dépend en grande partie de la législation nationale et des autorisations accordées par les autorités locales. Bien souvent, malgré tout, tu l'imagines, l'espace aérien des villes demande une altitude particulière. Pour prendre un exemple français, Paris, l'altitude à Paris est de 200 mètres minimum. Ces altitudes sont fixées, bien entendu, pour des raisons de sécurité, mais aussi bien sûr de nuisances sonores. On peut imaginer que dans des villes un peu plus verticales, comme à Singapour, par exemple, ces exigences sont relevées à la hausse.
À Paris, il faut quand même faire gaffe. Hein. Il y a certains trucs pour éviter.
Ouais. Les trucs en métal.
Si t'es à 200 mètres, voilà, c'est faut faire attention.
La plupart du temps, c'est même interdit de survoler Paris.
Ouais, tout à fait. En avion surtout, en hélicoptère, c'est un peu moins, c'est un peu moins dur. Ouais. Concernant le nombre d'hélicoptères autour d'un Grand Prix, il y a, comme ta question le sous-entend, plusieurs catégories. Il y a d'abord les hélicoptères de télévision, hein, qui diffusent donc les images vues du ciel de la course devant lesquelles nous nous écrions parfois « Dieu que c'est beau ». Pour ce qui est de leur nombre, assez peu d'informations sont disponibles, hein, mais à en juger par les images, le grand grand maximum selon mon estimation doit se situer autour de 2. Et encore, je suis large. Il faut savoir aussi qu'il y a un important trafic d'hélicoptères privés ou civils entre les grandes villes et les circuits. Hein. En France, par exemple, quand le Grand Prix de Manicourt avait lieu, la fréquentation sur les parcours entre Paris et la Nièvre était si importante qu'il fallait fermer d'autres axes à la circulation pour des raisons environnementales.
En ce qui concerne en revanche les hélicoptères médicaux, là les règles sont bien sûr plus précises. Avant tout, leur présence sur le circuit s'inscrit dans une démarche globale de sécurité et de réaction rapide. De ce fait, si les soins à apporter aux pilotes ne réclament pas un service spécialisé, il sera pris en charge par les équipes présentes, hein, non loin des lieux de l'accident, mais devra faire un passage au centre médical du circuit qui est équipé des dernières innovations médicales, notamment d'un service de réanimation et d'une salle d'opération. Malheureusement, il arrive donc parfois que les blessures soient d'une gravité telle qu'elles réclament une prise en charge par un hôpital à proprement parler, par exemple quand un pilote frappe avec sa tête. Dans ce cas, un hélicoptère médical se tient prêt à tout moment pour intervenir dans l'enceinte du circuit. L'équipe présente dans cet hélicoptère est bien sûr composée d'un pilote, d'un médecin et de deux secouristes qui sont prêts à voler à tout moment. Les hôpitaux locaux sont d'ailleurs en alerte constante durant les courses et un second hélicoptère est situé en dehors du circuit pour compléter le dispositif. Il faut savoir donc qu'une course de Formule 1 ne peut pas débuter ou reprendre si elle a été interrompue tant qu'un hélicoptère médical n'est pas présent sur le circuit et prêt à décoller, ni bien sûr tant que les conditions climatiques sont jugées trop dangereuses pour que l'hélicoptère prenne la route des airs. Petite question comme ça en passant, à votre avis, depuis quand l'hélicoptère est obligatoire sur un circuit ?
Ah, oh, c'est début des années 90, c'est suite à un accident, je crois. Mais je sais plus lequel.
Ou 86, alors.
C'est ça, c'est 86.
La mort de...
La mort de Angelis.
Voilà, ouais. C'est ça.
Ta dernière question concerne les pilotes de F1 et leur passion pour les hélicoptères. Alors, je constate qu'en nous remémorant Colin McRae, tu joues les vendeurs de larmes. En F1, il n'y a pas à déplorer de pilotes morts en hélicoptère. En revanche, Alessandro Nannini, à la fin de la saison 90, fut victime d'un accident en rendant visite à ses parents juste avant le Grand Prix du Japon. Donc au moment de l'atterrissage, il fut éjecté de l'hélicoptère et une des pales lui sectionna net le bras droit. Incapable par la suite de pouvoir serrer un objet avec sa main droite, il ne put reprendre sa carrière, ce qui nous permet aussi de saluer Robert Kubica. Pour citer quelques exemples de pilotes de F1 qui savaient piloter un hélicoptère, il y avait Gilles Villeneuve, dont le pilotage paraît-il laissait pantois, si bien qu'un journaliste a écrit qu'on ne reprenait pas à deux fois les gens qui allaient partager un voyage en hélicoptère avec Villeneuve aux commandes. Et parmi les pilotes actuels, bien sûr, Mark Webber est un aficionado, hein, certaines vidéos sont disponibles sur Internet, où il exécute avec un hélicoptère estampillé Red Bull une série de looping dans les airs.
Et il a passé justement sa licence il y a un ou deux ans, je crois.
Oui, il me semble, ouais, tout à fait. Pour finir, une petite anecdote. À l'époque où Ayrton Senna et Gerhard Berger étaient coéquipiers chez McLaren, les deux hommes s'étaient retrouvés dans le même hélicoptère pour faire un tour d'hélicoptère au-dessus de la région de Monza. Et durant le voyage, Senna avait montré à Berger sa nouvelle mallette sur mesure, une mallette en fibre de carbone, qui selon le Brésilien était pratiquement indestructible. Donc évidemment, comme tout un chacun, Berger a voulu vérifier les dires de Senna. Il a eu la bonne idée de prendre la mallette, d'ouvrir la porte de l'hélicoptère et de l'acheter dans la campagne. La valise fut malgré tout retrouvée non loin du circuit lombard. Il faut savoir qu'elle contenait quand même les papiers d'identité de Senna. Et cet incident marqua le début d'une série de représailles et de contre-représailles entre les deux hommes, puisque Senna, en réponse, introduit des grenouilles dans la chambre de Berger, dans le lit de Berger même plus précisément. Lorsqu'il découvrit ça, il demanda à Senna s'il avait vu le serpent. L'Autrichien remplaça aussi la photo du passeport de Senna. Alors là, les versions divergent. Il y en a qui disent que ça a été remplacé par une poitrine de femme, et d'autres qui disent, c'est Ron Dennis, alors j'ai tendance à le croire, qu'il a été remplacé par une photo d'un personnage qui ressemblait plus à un singe qu'à un humain. Voilà. Et donc, alors, ce passeport-là a été utilisé en Argentine.
Ah, c'était Bambrilla.
Ça devait être lui, je pense. Ou Regazzoni, je sais pas.
Oui, c'est vrai.
Et donc, ce passeport avait été utilisé en Argentine où, grâce à sa notoriété, il avait quand même pu passer la douane. Et enfin, Senna, pour se venger de ce dernier coup, colla entre elles avec de la superglue les cartes de crédit de Gerhard Berger. Voilà.
Tu as oublié quand même un hélicoptère très important qui est présent sur les Grands Prix et qui ne se crachera jamais celui-là. Il y a aucune chance qu'il se crache. C'est l'hélico de Bernie Ecclestone qui est très qu'on voit constamment décoller, atterrir. Il ne fait que ça. Et voilà, Bernie ne vient jamais sans son hélicoptère.
Bien sûr. C'était très intéressant.
La question était très intéressante.
Merci à Daniel Henry pour sa question.
Dino,
on passe à la question suivante.
Oui, voilà, d'autres questions.
Alors, c'est une question de Adelin qui nous demande la chose suivante. Je me suis demandé pourquoi il y avait un Grand Prix d'Europe. À quoi servait-il? Est-ce que c'était pour avoir une course en plus? Pourquoi est-il passé du Nürburgring à Valence?
Déjà, tu y réponds en partie à la question.
Oui.
Parce que, en effet, à quoi sert le Grand Prix d'Europe? Ça sert à un pays à avoir un deuxième Grand Prix.
Par exemple, l'Espagne.
Par exemple, l'Espagne. Ou l'Allemagne.
Ou l'Angleterre.
À noter d'ailleurs que l'Allemagne, par exemple, l'exemple du Nürburgring, il a été à la fois Grand Prix d'Allemagne, Grand Prix d'Europe et Grand Prix du Luxembourg. Donc,
Oui, mais c'est un petit subterfuge habituel. Imola,
voilà.
Imola n'était pas particulièrement situé à Saint-Marin. Ouais. Dijon n'était pas particulièrement situé en Suisse.
En Suisse.
Donc, bon. Puis il y a eu le Grand Prix du Pacifique qu'on évoque souvent, voilà, ouais. on évoque aussi souvent par exemple un Grand Prix de Méditerranée. Enfin voilà, on sait que si jamais il devait y avoir un autre Grand Prix, c'était évoqué pour Rome, je crois.
Oui.
Le fait que ce soit un Grand Prix de Méditerranée, parce que le Grand Prix d'Europe était déjà pris, le Grand Prix d'Italie était déjà pris.
Non mais le nouveau truc, c'est avant c'était pays et puis on foutait Grand Prix avec un continent ou une grande surface maritime, genre le Pacifique.
Oui.
Là maintenant le truc, c'est les villes. Voilà, Grand Prix des États-Unis, Grand Prix de New York. Grand Prix de Grande-Bretagne?
Ah non. Le Grand Prix des États-Unis, c'est le Grand Prix d'Amérique.
C'est vrai, tu as raison. C'est
ouais, parce que c'est vrai qu'avant, ils faisaient Grand Prix des États-Unis Est et Grand Prix des États-Unis Ouest.
Ouest.
D'accord.
Là, c'est nous qui mettons New York parce que ça se vend plus.
Ça se vend plus. Ah,
si on met Grand Prix d'Amérique, ça va attirer surtout les turfistes. Et c'est pas tout. Genre Alonso remporte le Grand Prix d'Amérique, les mecs vont pas comprendre. Il y avait pas de cheval qui s'appelait Alonso.
Rosé du caisson, casaque grise.
Mais il connaît c'est Zitron réincarné, ce gars.
Oh, alors là, calme-toi, faut se calmer avec Fabien, il n'est pas
avec la voix de Bourville en plus.
Ouais, non mais Fab, c'est 5 ans d'école du rire de Bucarest, hein, il faut quand même.
Oui, c'est vrai.
Ouais, et la formation à Bucarest est quand même particulièrement corsée.
Bien sûr. Ouais. Une autre chose à rajouter sur cette question?
Pourquoi c'est passé du Nürburgring à Valence?
À Valence? Parce qu'il voulait faire un deuxième cycle. Non mais c'est quoi à dire? C'est qui?
Je pense que en fait à l'origine c'est passé avant qu'il y ait Valence. C'est parce qu'il y avait l'alternance qui avait été décidée entre le Nürburgring et Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne.
Il y a eu une bisbille, tu sais, au niveau du nom. C'est-à-dire que ça devait passer en alternance, mais comme les propriétés entre le Nürburgring et Hockenheim sont pas les mêmes, c'est-à-dire que la première année, le Nürburgring n'avait pas le droit de s'appeler Grand Prix d'Allemagne.
Ben, je crois que c'est le fameux Grand Prix où Hamilton sort, il est remis sur la piste,
voilà.
Et que ça se finit en une bagarre Alonso-Massa. Massa fait un peu sa finie à la fin du jeu. Oh, ça peut être très clair et tout.
Il n'y avait pas eu de Grand Prix d'Allemagne cette année-là, pour des questions de droit. En tout cas, pourquoi c'était cette année-là au Nürburgring? Puis bon, après, il y a le Grand Prix de Valence qui est arrivé.
Alors ensuite, il y a une question de Sylvain, qui nous dit « Salut à toute l'équipe du SAV. À Valence, Timo Glock était malade. »
C'est pas vrai.
Et dans l'un de vos articles...
C'est ça la question.
Il va falloir reprendre un jingle, ça.
Et dans l'un de vos articles, vous avez évoqué le fait que le remplaçant devait être détenteur de la super licence. Pourriez-vous nous éclairer sur les conditions d'obtention de la super licence? Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre émission que j'attends chaque semaine avec impatience.
C'est gentil.
Bonsoir Sylvain. Sylvain, il faut savoir que les licences, en général, définies par la FIA, sont régies par l'article 47 du Code sportif international de la FIA. Qui stipule tout simplement que nul ne peut prendre part à une compétition, établir ou battre un record s'il n'est détenteur d'une licence de la FIA.
Alors, là, c'est avant mieux. D'être c'est mieux que la licence.
Avant d'être licencié auprès de la FIA, il faut avant tout être licencié auprès de l'autorité sportive nationale, donc de votre fédération, soit dans votre pays, soit dans le pays où vous êtes, et là je cite le règlement, résident permanent de bonne foi.
Par exemple, Sébastien Buemi.
Voilà, qu'il soit licencié en Suisse, soit licencié à l'époque à Bahreïn. On peut prendre aussi par exemple le cas un peu plus récent de Lewis Hamilton, qui, bien que britannique, aurait pu soit avoir une licence britannique, soit une licence suisse à l'époque où il vivait en Suisse, soit maintenant une licence monégasque puisqu'il vit à Monaco. Il faut cependant noter que sur les licences, quoi qu'il arrive, c'est la nationalité qui figure sur le passeport qui est marqué. C'est-à-dire que même si, par exemple, un pilote britannique a une licence monégasque, sur sa licence, il y aura écrit nationalité britannique. Voilà. Et à noter également, puisqu'on a déjà eu le cas, et notamment des cas très célèbres, de licences qui peuvent être délivrées sous un pseudonyme, mais que aucun pilote ne peut faire usage de deux pseudonymes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, Alonso... peut pas avoir une licence au nom de Fernando Alonso et une autre au nom de
Fantomas quoi pour le fun.
Non, Fantomas
Don Diego de la Vega.
Pour Raikkonen et James Hunt quoi.
Voilà. Donc sinon, la licence de la FIA doit être renouvelée tous les ans à partir du 1er janvier de chaque année. La délivrance, donc là je cite le code sportif, la délivrance ou le renouvellement de la licence peut donner lieu à une perception d'un droit. Et là il faut savoir que la FIA a la main lourde. En 2007, la super licence, par exemple, elle coûtait 1 690 € de base, plus 447 € par point inscrit lors de la saison précédente.
Oh, putain.
Ce qui, en soi, est déjà pas mal. Il faut savoir qu'en 2009, on a changé les choses. Hein. Le prix est passé à 10 400 € de base, plus 2 100 € par point. Ce qui fait que certains pilotes payaient leur super licence 250 000 €, hein, en sachant que, effectivement, au même moment, comme par hasard, le barème de points a changé. Déjà, les mecs marquaient plus de points, et les points payés, il est payé beaucoup plus cher. Donc...
Mais où va cet argent?
Voilà, la bonne question. À noter aussi, j'ai lu une anecdote concernant la super licence, c'est de Mika Häkkinen qui en 2000 disait grosso modo qu'il aimerait bien être champion du monde mais sans marquer trop de points parce que ça lui permettrait d'avoir la licence pas trop chère pour 2001. Le document de la super licence reste la propriété de la FIA, c'est-à-dire que vous n'êtes pas détenteur de la super licence, donc on peut vous la retirer quand on veut. Voilà, encore une fois, c'est très important. La suspension ou le retrait de la licence résultant d'une sanction, donc là je cite encore une fois le code sportif, résultant d'une sanction exclut temporairement ou définitivement son titulaire des championnats de la FIA pour la durée d'une telle suspension ou d'un tel retrait. Voilà, donc
il y a eu des
automatiquement,
cas.
comme la licence elle est nécessaire pour participer au championnat, si vous n'avez plus de licence, vous pouvez plus participer au championnat.
Il y a eu des cas de retrait de licence?
Alors je sais qu'il y a eu le fameux cas de Yuji Hide, je crois, ou ouais c'est ça.
Ouais. Ouais. Bah oui, je suis con.
Mais après des cas de sanctions ayant entraîné un retrait de licence en tant que pilote, j'ai pas le souvenir dans un avenir récent.
Je me demande si Senna il avait pas été à titre provisoire.
Ah oui, Senna oui par rapport à 90.
89 peut-être non. Ah.
L'accident avec Prost.
Bah 89 plutôt parce que 90 il a pas été inquiété je pense.
De toute façon les années Prost Senna de toute façon quasiment à chaque fin d'année il y avait une affaire entre les deux.
Oui donc
je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité.
Non c'est clair.
À noter que la commission d'une infraction sur la route constatée par une autorité de police nationale est constitutive d'une infraction au présent code si cette infraction est grave, a mis en danger autrui ou est contraire à l'image du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA. Bah ça c'est typiquement l'affaire de Melbourne voilà. Avec Hamilton, les excès de vitesse sur la route et compagnie. Si on vous retire des points, bah voilà, on conditionne aussi votre licence. Alors dans les sanctions qui sont proposées par le code sportif, on vous propose pas de la sanctionner, vraiment de vous retirer votre super licence, mais c'est soit un avertissement, soit des travaux d'intérêt généraux entre guillemets auprès de la fédération, des jeunes et compagnie. Donc vous pouvez speeder comme un con sur la route, il y a très peu de chances quand même qu'on vous retire votre super licence. Pour cette raison-là. Alors maintenant, quand il s'agit d'avoir la réponse concrète sur comment est-ce qu'on obtient la super licence, tout simplement, il y a différents grades de super licence. Après, donc on a une licence dans son pays, et après, si on veut participer à des événements internationaux, on doit faire la demande auprès de la FIA. Et tout simplement, on a une licence qui est au regard de la compétition dans laquelle on participe. Donc, il y a la super licence, qui est la licence ultime, voilà, celle qui porte son slip sur son pantalon, qui, elle, n'est requise. c'est la super licence.
C'est la super licence.
Qui, elle, n'est requise que pour ceux qui participent au championnat du monde de Formule 1. Si vous participez à des essais de Formule 1, des essais
en ligne droite,
des essais privés ou des essais en ligne droite, toutes sortes d'essais ou des démonstrations même en Formule 1, la Formule 1, le GP2 et l'IndyCar. Alors je mets des guillemets parce qu'il y a une petite anecdote amusante. Tout ça c'est une licence de degré A qui est nécessaire. D'accord. À savoir que quand vous avez la super licence, automatiquement vous avez la licence de degré A. Donc du coup, il y a pas de problème. Vous pouvez faire du GP2 en étant en Formule 1. À savoir que techniquement dans le code sportif de 2012, j'ai mis IndyCar, mais il parle encore de Champ Car et d'IRL.
Oh
là là.
Donc, Soit ils ont pas vraiment bien relu le document, soit ils ont quelques wagons de retard.
C'est...
Alors après la licence de degré A, enfin avant la licence de degré A, il y a la licence de degré
B.
B, bravo Shinji, qui est requis putain. Pour les championnats WTCC, les championnats GT ou le championnat F2 d'IFIA.
Même pas le WRC ?
Non, parce qu'il y a une licence spéciale pour ça.
Ah.
Ensuite, il y a la licence de degré
C.
B. C, bien bravo, qui est requis pour les championnats d'autocross, de rallycross et de camion, la FIA. Ensuite, il y a la licence de degré
D.
R.
Ah, voyez.
Qui R comme rallye, hein, qui est valable pour toutes les épreuves sur route, où les départs sont donnés de façon différée entre chaque pilote. Donc c'est rallye tout terrain, course de côte et compagnie.
Ou contre la montre de cyclisme.
Voilà, tout à fait.
Ouais, truc qui peut être dangereux, quoi.
Et après la licence de degré R, il y a la licence de degré
Zéro. K comme karting.
Non, la licence de degré D. qui est une licence exceptionnelle, qui permet en fait à des gens qui n'ont pas de licence de bénéficier d'une licence pour participer à une épreuve internationale à usage unique.
De miniature.
Voilà. Par exemple, on peut penser que pendant sa retraite, Michael Schumacher, s'il avait souhaité participer à un événement international, il aurait demandé une licence de degré D qui n'aurait été valable que pour l'événement précis. À noter qu'on a parlé tout à l'heure du karting, il y a une licence qui englobe généralement tous les juniors, qui est la licence de degré FIA Junior C Off-Road. Ce nom est imprononçable. Qui est exclusivement réservée aux catégories de voitures juniors, telles que celles spécifiées par la FIA, pour les pilotes d'un âge compris entre 13 ans, ou atteignant 13 ans durant l'année de sa licence, jusqu'à 16 ans non révolus dans l'année de sa licence. Il ne faut pas avoir 16 ans l'année de ta licence. À noter que, petite nouveauté, là on vient parler de la licence des concurrents, il y a une licence qui a été introduite assez récemment, qui est la licence des participants.
Oui. Wow.
Qui a été introduite notamment suite à l'affaire du Crashgate de Singapour, où il y a eu toute la procédure judiciaire autour de Briatore, de Pat Symonds, où finalement on a reconnu que la FIA n'avait aucune autorité pour exclure ces gens-là de la Formule 1. Donc du coup la FIA s'est dotée d'une arme, tout simplement réglementaire, en imposant aux équipes d'avoir une licence pour ses membres les plus importants. C'est-à-dire qu'en Formule 1, il faut que 6 membres de l'équipe soient licenciés. C'est-à-dire que quand vous voulez participer au championnat, quand vous inscrivez, vous déposez le nom de 6 personnes qui sont dans le staff technique de l'équipe, qui sont généralement c'est le directeur technique, le responsable de l'équipe, il y a le directeur sportif, il y a le team manager, et il y a normalement les deux ingénieurs de course. Qui doivent donc obtenir une licence, sinon tout simplement l'équipe ne peut pas être inscrite au championnat sans ça. Et naturellement, bah, comme pour la licence pilote, ça se déclare au 1er janvier, c'est valable un an, et la FIA peut vous la retirer, puisque la FIA est propriétaire de la licence.
Bien sûr.
Donc du coup, par conséquent, si jamais vous portez atteinte à l'image de la Formule 1, vous avez un comportement antisportif, là, la FIA dispose d'un biais, d'un point réglementaire qui lui permet bah, de vous retirer votre licence, donc de vous interdire de participer aux événements internationaux. Mm-hmm. Donc attention à votre cul, messieurs les directeurs d'écurie. voilà, c'est tout.
J'ai une question. Du coup, il n'y a aucune condition d'avoir le permis de route pour avoir une licence de la FIA, du coup?
Non.
Non.
On a d'ailleurs des exemples de pilotes, je crois que c'est
Di Resta, hein.
C'est pas Fangio,
ouais. Il y avait même des pilotes récemment, je crois que c'est Sébastien Vettel qui au tout début de sa carrière ne l'avait pas.
Attends, oui, à partir du moment où t'as des pilotes voilà, à partir du moment où t'as des pilotes de plus en plus jeunes, on se doute bien qu'au bout d'un moment, il y en a qui ont pas encore leur permis.
Oui. Par contre, contrairement à une rumeur qui court souvent concernant les licences, la licence FIA n'a aucune valeur en tant que permis, c'est-à-dire que vous pouvez pas souvent les gens disent ah oui, mais un pilote avec sa licence, il peut passer
non.
Il faut un permis.
Non, mais ça aussi, je pense qu'il y a un. C'est un faux ami dû à l'anglais. Puisque le permis en anglais, c'est license.
Oui, peut-être, oui. Donc, voilà, c'est vraiment la part des choses. L'un n'est pas nécessaire pour l'autre et l'autre n'empêche pas d'obtenir le premier. Putain, cette phrase, elle était
belle. Ouais, franchement, c'était difficile de s'en sortir et je te tire mon chapeau.
Bon, on la coupera quand même.
Oh non!
Y a-t-il d'autres questions, Dino, dans le
répondeur? Alors oui, il y en a une dernière.
Ah, oula.
J'ai gardé la meilleure pour la fin, parce que c'est une question de Maël.
Ah.
Oui, nous restons fidèles à Maël.
Bah, c'est surtout toi qui dois rester fidèle à Maël, hein, parce que...
À nous, en tant que SAV.
Ah non, non, toi, oui. Toi, en tant que toi.
Pourquoi moi?
Bah parce que, je sais pas, tes attitudes un petit peu bizarres. Enfin, je veux pas inquiéter Maël. Hein.
Alors, Maël qui apparemment fait une fixette sur Steph Core.
Oui. Si tu savais où il passe ses journées, tu la ferais pas sur fixette.
Donc, coucou le SAV de la F1. Lors d'une émission précédente, Steph Core a évoqué la procédure de départ et pendant cette explication, il a parlé du double embrayage. Ma question est, qu'est-ce que le double embrayage? Et là où je dis qu'il a fait une petite obsession sur Steph Core, c'est qu'à la fin du mail, j'ai trois fois le nom Steph Core en gras.
Jaloux.
Donc Maël, d'abord nous allons répondre à ta question, mais après si tu veux en off, on te donnera le numéro de Steph Core. Là, il est particulièrement joignable en ce moment. Ça va arriver, pas Maxime. Tu vas en plus très bien l'entendre. Tu n'entendras peut-être pas que lui.
Rapport à la céramique, tout ça.
Donc là, je suppose que c'est une question pour Shinji. Alors Shinji, qu'est-ce que le double embrayage?
Le double embrayage, Shinji. Oh là.
Vas-y Shinji, réponds-nous, s'il te plaît.
Bah, je sais ce qu'est un double embrayage sur une voiture classique, mais alors sur une F...
Bah explique.
Donne la chance.
Mais c'est un système de double boîte, ça existe notamment sur un certain... Souvent plutôt c'est sur les modèles haut de gamme, c'est-à-dire que au lieu d'avoir votre boîte avec 5 ou 6 rapports, avec la pédale d'embrayage, ce qui est le truc courant chez nous, ou d'avoir un système automatique, comme ils ont en Amérique du Nord, où en fait c'est juste une position de conduite et ils ont pas de pédale d'embrayage, hein, c'est juste la position qu'on met dès le départ. Là souvent c'est un système mixte, souvent c'est représenté entre guillemets par une poignée simplifiée, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la grille, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R, vous avez juste un plus et un moins pour descendre et monter les rapports, et en baissant en delà du moins, vous avez évidemment la marche arrière. Et donc souvent c'est couplé comme c'est un système électronique, c'est-à-dire que soit on peut la mettre en tout automatique, donc on touche plus à rien, soit on la met en semi-automatique, et là on sélectionne les rapports en faisant plus ou moins. Mais ça c'est sur une voiture de monsieur tout le monde.
Le pire c'est que j'ai rien compris, donc je me dis, ah ça se trouve c'est peut-être ça.
Mais ça se trouve c'est pas du tout ça en plus.
Alors Gus.
Ouais parce que moi ce que je vois comme double embrayage, il y a deux solutions, c'est soit le fait qu'il y ait deux palettes d'embrayage sur le volant et donc que d'un côté tu puisses enfoncer l'embrayage à fond et de l'autre côté mettre la quantité qu'il faut pour le départ par exemple, en relâchant la palette que t'as enfoncée à fond, t'as le point dur de l'embrayage et tu prends le meilleur départ possible, soit le fait qu'un embrayage il soit constitué de deux disques. À ce moment-là, je sais pas exactement les avantages que ça a par rapport à un embrayage où il y a qu'un seul disque. Mais voilà, c'est deux autres trucs différents, deux autres interprétations différentes de l'expression de double embrayage. Donc je sais pas vraiment.
Donc en fait c'est juste une sécurité au départ en fait au niveau de l'embrayage quoi.
Bah de toute façon s'il y a double embrayage c'est qu'il y a palettes. Un double système. Voilà.
Non mais si c'est sur les palettes, c'est-à-dire que tu peux te permettre de.
Bah, c'est juste le fait qu'il y ait deux palettes. D'un côté tu peux enfoncer la palette à fond pour la relâcher et que ce soit l'autre palette qui prenne le relais en ayant une position plus médiane quoi.
Ça sert à quoi par rapport à un embrayage simple?
Bah c'est à dire que quand t'as qu'une seule pédale d'embrayage, t'es obligé d'enfoncer la pédale à fond et de débrayer un petit peu pour prendre le départ. Alors que d'accord. Là tu peux moduler une des pédales et relâcher tu peux enfoncer l'embrayage à fond et prévoir la quantité d'embrayage que tu vas mettre pour le départ et relâcher sans que l'autre palette bouge.
D'accord.
Chers auditeurs, moi aussi on je suis largué lors des débats techniques.
Mais les marrons, lui, ils nous balancent le truc technique alors que tu ne nous l'as même pas donné avant.
Normalement, pour quelqu'un qui est doué en technique, c'est simple.
Ah bon, ça va.
Tu me demandes à moi.
Bon, non, mais toi, je te demande à toi pour la farce, je dis. Et c'était très drôle.
Mais ce qu'a dit Shinji est... Mais...
Ah, vas-y, dis-le.
Ah. Ce qu'a dit Shinji est très bien aussi.
Comme quoi, elle a eu une double réponse pour le double embrayage.
Oui, c'est vrai. Ah. Je suis pas sûr qu'elle soit doublement éclairée.
Elle aurait voulu une réponse de Steph Core, j'ai l'impression.
Oui, je crois. Nous allons essayer de le joindre. Donc, je rappelle que pour nous poser des questions, c'est répondeur@sav.fr. N'hésitez pas, hein, vraiment tout type de questions, même je voulais ouvrir un débat, une question sur la philosophique sur l'iPhone ou quoi que ce soit. Voilà. Un sujet que vous aimeriez nous entendre traiter, ben n'hésitez pas. Cette rubrique est à vous.
Et donc Dino, y a-t-il une autre question au répondeur ?
Non.
N'a pas. Yes, bien Dino, il n'y a plus de questions au répondeur, mais on a une dernière question pour ce soir.
Ah bon ?
Oui. Parce que vous savez,
écoutez,
comédien incroyable,
l'acteur studio.
Alors ça,
et l'Oscar 2013.
Sortez des trucs, parce que répondre des trucs, des questions, je dis poète poète. Hein. Ah, car vous savez, il y a quelques semaines, c'était le 3, l'E-Cube, l'Electronic Entertainment Expo, et.
Oui, non, non, je m'adresse à la partie du public qui est un peu comme moi et qui dit « Ah, un truc de jeu !»
Oui, c'est un truc de jeu. À cette époque, Steph Korn vous avait proposé une question qu'on n'avait pas sortie parce qu'on n'avait pas eu le temps. Mais comme là, on a un peu plus de temps, on va la faire.
C'est bizarre, ça, d'ailleurs.
C'est toujours long avec Steph Korn.
Bien, c'est toujours long. Et Steph Korn s'est posé cette question hautement philosophique. Quel héros de jeu vidéo pourrait être incarné par un pilote ?
Incarné dans le jeu vidéo ou j'ai un peu peur d'avoir Lewis Hamilton en Catwoman ou en Tomb Raider quand même, hein, donc.
Voilà, disons, quel pilote pourriez-vous associer à un héros de jeu vidéo?
Bah Lewis Hamilton et Catwoman, il a déjà la combinaison, donc ça va.
Mais non, on parle plus de ces choses-là, voyons. Alors, il donne des exemples tels que Mario et Luigi, Sonic, Kratos, Nation Drake. Tiens, c'est très drôle ça, Nation Drake. Non, c'est Nathan, Steph. Nathan. Pas Nathan.
Nathan Drake. Bah, ça serait forcément Fernando Alonso.
Pour le côté mal rasé?
Pour le côté génial.
Ah oui, c'est vrai que c'est un fan d'Uncharted, Dino. Pour le rappeler.
Je suis pas un fan, c'est le seul jeu que j'arrive à finir en moins de 10 heures.
En mode facile. Alors.
Non, en moyen.
Ah oui. En mode facile, quoi.
J'ai la blague classique qui est de dire que la moitié des pilotes de NASCAR peuvent jouer Mario, mais...
La moitié
des pilotes de NASCAR peuvent jouer Mario.
Ah, c'est drôle. Bah oui, mais c'est classique, hein, c'est pas non plus... Oui, c'est pour dire Tony Stewart.
Ça me rappelle ces blagues classiques qu'on ne comprend pas.
Mario, il est un peu empâté. Enfin voilà, c'est un pilote de Tony Stewart, Mario.
Oh, il est pas empâté. Oh là là, il a quand même perdu du poids. Hein. Il a une ossature lourde.
Ça me rappelle ma mère quand j'étais gamin. Elle me disait, mais non, t'es pas gros, mon chéri, t'as de gros os. C'est dans la famille.
Oh là là.
Mario.
Claire et Gazzoni pour Mario.
Mais ils étaient un peu gays, Mario et Luigi.
Comment ?
Ils sont un peu gays, Mario et Luigi, quand même.
Bah, ils sont frères, non ?
Frères,
non ? Oh, ils sont frères, ils sont un peu village people, quand même.
Bah, je sais pas, écoute, fais ce que tu veux avec ton frère.
Fais ce que tu veux avec ta famille, ça.
Bah là, on vous fait croire que Mario et Luigi sont frères, mais en fait, ça se trouve, ils sont pas frères.
Mais Mario, il en a toujours après Peach.
Oui, il cherche
à faire ça. C'est Mario Bros, comme Bros.
Tu remarques. Ah, peut-être.
Pas comme une brosse, non.
C'est pas Brazzers, non. Enfin, voilà.
On comprend souvent.
Bon, alors, pour jouer Mario, Claire Gazzoni, pour jouer Luigi.
C'est pas facile, ça. Un pilote moustacheux.
Rosberg.
Ah oui.
Kéké.
Kéké. Bah oui.
Maldonado, faut lui trouver un bon personnage.
Bah Maldonado.
Oh bah tu peux mettre Kratos. Brutal. Hein. Voilà, c'est brutal. Il est souvent de mauvaise humeur.
C'est quoi ça, Kratos?
God of War.
Ah.
Pourtant ouais, t'as une PS3 hein, et une PS2. Il sait pas ce que c'est God of War.
Bah non, voilà. Non, mais j'adore cette ségrégation. Genre tous les possesseurs de PS3 devraient avoir God of War.
Je ne suis pas posséder, mais connaître.
Moi j'annonce, je vais être targué. Je connais des jeux que j'achète. FIFA, Formula One, voilà.
Ouais, il y a moins de personnages dans ces jeux-là.
Voilà.
Non mais.
BioShock par exemple, voilà, ça je connais. Là, t'es un peu pourri après réflexion cette question.
Là, il faudra avoir une culture jeu vidéo.
C'est surtout moi, on n'est pas doué.
C'est toi, je suis dit l'expert en jeux vidéo. Vas-y, balance des noms.
Et moi, je te dis, par exemple, Maldonado, ça pourrait être Kratos. Nathan Drake, comme t'as dit, Alonso. Mais moi, je retiens plus le côté mal rasé.
Oui, mais le côté fort aussi compte.
Oui, si tu veux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre?
Sonic, ouais, mais Sonic, enfin, c'est pas...
Ah, Sonic, c'est Grosjean.
Pourquoi Sonic, c'est Grosjean? Tiens, c'est...
Parce qu'il est rapide.
Non, Sonic, c'est Prost, rien que par rapport à la William de 93.
Bah oui.
C'est vrai qu'on pourrait, confondre le nez d'Alain Prost avec la coiffure de Sonic. Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est, c'était un gros problème pour les ingénieurs, mine de rien.
Ah oui.
Le flux aérodynamique et tout, c'est terrible.
Surtout dans le casque.
Oui. Ah oui.
Bernie, tu mets Solid Snake. Il s'en sort toujours furtivement des petites affaires.
Oui, puis c'est vrai, puis Solid Snake, au fur et à mesure des épisodes, il est toujours de plus en plus vieux et il meurt jamais. Donc celui-ci, oui. C'est Bernie. Oui, tout à fait.
Je viens d'imaginer Bernie en train de ramper dans la neige. Eh, hey. Se faire en train de se faire pisser.
Bien sûr. Et quand il meurt, Bernie. Parce que faut connaître le jeu.
Oh bah Trulli, le mec de Prince of Persia. Ça ne s'est pas passé comme ça.
C'est vrai. Utilisons les sables du temps pour revenir en arrière et changer les choses.
Kubica, c'est Rayman.
Les bras vont tomber.
Voilà.
Voilà. Alors, Massaf la taille, ça peut être n'importe quel nain dans n'importe quel jeu de Heroic Fantasy.
Moi, j'ai trouvé pour Juan Pablo Montoya.
Ah. Oula.
Pac-Man.
Ça, oui, c'est pas faux.
Il y a beaucoup de jeux, c'est quasiment déjà le cas. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que Pac-Man, oui, ça lui va bien en ce moment. Villeneuve, il n'y a pas un héros qui est jamais content, un truc comme ça. Ouais, qui est méchant gratuitement.
Il faut un jeu de musique tout pourri.
Un jeu de musique tout pourri.
Ouais, tu sais, genre SingStar.
C'est quoi le truc qui se déroulait dans l'espace avec où tu devais l'émission de
oh, ça c'était nul. Ah.
Voilà, c'est ce que je dis.
Space Channel 5.
Voilà. Mais oui. Ça, Villeneuve, la musique pourrie.
Voilà. L'héroïne, Michael Jackson et Jacques Villeneuve, c'est tout à fait logique.
Ah ouais, ça c'était nul. Lewis, il pourrait être un des personnages de Vice City, quoi, un truc comme ça, GTA.
Non. Ah, Lewis, c'est Catwoman.
Non.
Ou, Lara Croft.
Non. Non.
C'est... Il a déjà le costume.
C'est Tommy Marchetti. Laisse-le tranquille. C'est CG Johnson.
Ah oui. GTA San Andreas.
Je savais bien que quelqu'un comprendrait.
Bon, est-ce qu'on en a oublié? Ah, Vettel, faut trouver quelqu'un pour Vettel. Mais Vettel, je crois qu'on a... Ah, Vettel, c'est peut-être le héros de Formula 1 2011.
Non, arrête.
Ah bah. Formule 1 2012 alors si tu veux. Non,
un autre. Non, un autre.
Pas d'inspiration.
Lara Croft, mais... Lara Croft.
Non, Lara Croft, c'est Lewis Hamilton.
Lara Croft, c'est pas Lewis Hamilton.
Oui.
Lara Croft, c'est... qui c'est qui va fouiller dans les tombes?
Mosley aimerait ça.
Mosley, ça peut...
Bruno Senna, il aimerait invoquer l'esprit de son oncle au moins.
Oh putain, le manque de culture de jeux vidéo, c'est dingue.
Non, mais le truc, c'est que c'est tellement vaste que finalement, t'arrives plus à...
Bah ouais. Non, mais c'est pareil, après, on peut... Dans ce cas-là, si nos auditeurs se connaissent rien, on peut dire, ah bah oui, Trulli dans Concombre Man. Ah bah non, Carty Keyon dans Concombre Man. Non, dans le jeu, la Kung Fu... Ah, le jeu sur portable.
Kung Fu Cornichon.
Ninja Kung Fu, là, Ninja machin. Couper des légumes.
Ah bah, Maldonado, ah, oui. Ça peut être un des oiseaux de Angry Birds.
C'est vrai ça.
Non, mais Maldonado. Ça c'est déjà tous les pilotes finlandais qui sont dans Angry Birds donc.
Bah Maldonado deviendra finlandais.
Ça va être chaud mais on peut le faire.
Ah en s'arrangeant.
Les petits écarts de température.
Oui c'est vrai.
Non mais carte client faudrait lui trouver un jeu où on fait la météo.
Les chiffres et des lettres.
T'imagines un jeu où on fait la météo.
Louis Baudin de Vito.
Vous aussi, pointez du doigt cette perturbation et cet anticyclone des Açores.
Ne te trompe pas.
Et t'as moins 50% sur Monsieur Prof le jeu.
Rosberg, il a une belle tête de Link.
Ouais, mais c'est un personnage central, Link.
Mais oui, mais...
Faudrait un personnage...
Qui n'apparaisse jamais, une arlésienne.
En plus, Link ferme sa gueule tout le temps et on rêve un peu de ça quand même chez Rosberg.
Bah, de toute façon, il l'ouvre pas.
Ouais,
non. Ouais, quand enfin, il loupe, c'est pour
dire des choses intéressantes.
Je vais utiliser le titre, peut-être.
Voilà.
Mm. Un personnage qui dit des trucs cons.
Il y en a beaucoup dans les jeux.
Bah oui.
Bah oui. Ah, Dino, j'ai trouvé mieux pour Lewis Hamilton. Bayonetta.
Ah ouais.
Voilà. Ça, t'es content.
C'est très bien.
T'en penses quoi, Gus Gus, de cette comparaison?
Ah, c'est super, j'adore.
Moi aussi.
Ah bah tu vois, trois.
Non, mais sinon, Charlie Whiting, ça pourrait être la petite tortue qui donne le départ dans Mario Kart.
Les mêmes lunettes et tout.
Le même système.
Ah ben non, mais c'est ça, Maldonado, c'est Bowser. Ah ouais, non, Maldonado, c'est Bowser. Sincèrement, si tu cherches un personnage dans Mario Kart qui ressemble, bah, c'est Bowser.
Et Jean, c'est Todd.
C'est quoi que tu dis? On peut s'arrêter là.
C'est ouais. Oh, d'études. Voilà, ça c'est le résultat de 5 ans d'études. Magnifique. On va rappeler les adresses. Si vous souhaitez nous poser une question sur Répondeur, c'est répondeur@savf1.fr. On rappelle qu'il y a un concours.
Oh, je sais pas si c'est nécessaire.
Admite, rappelons au moins l'adresse pour le concours.
Bah, concours@savf1.fr. Je vais quand même rappeler la question. Combien de titres de champion du monde de Formule 1 ont-ils été remportés par des pilotes portant le nom, ou plutôt le prénom, d'un drapeau national? Par exemple, Jean-Pierre Tricolore.
Bah non, Tricolore Jean-Pierre.
On rappelle que pour retrouver le podcast, nous sommes sur iTunes. N'oubliez pas les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Mais on est aussi sur le site podcastfrance.fr. J'y pense parce que Steph Corr, il l'a noté dans son mail. Et c'est vrai, on est sur ce site qui, en fait,
oui,
répertorie une pléthore de podcasts audio et vidéo sur des thèmes extrêmement variés. D'ailleurs, il y a un top 10. Et vous savez quoi? On est 4e avec 10 votes. On n'a besoin que de 4 votes pour être premier.
Ah oui! Allez! Voilà, grande opération!
Ouais, je dis ça!
Opération voilà. Bourrer les urnes!
Voilà, c'est podcastfrance.fr. On arrive à la fin de cette émission. Merci, messieurs.
Oui. On peut dire aussi qu'on est tous sur Twitter aussi, si jamais ça intéresse les gens.
Ah oui, bonne idée, ça tient.
C'est vrai.
On a besoin de followers. Moi, c'est arrobase. Eh oh, je fais ma pub là.
Vas-y.
Je débute dans le métier.
Moi, c'est arrobase dino-savf1.
Bonjour, je suis Fabien. Et... bon, ben, j'ai un compte Twitter.
Après, ça m'intéresse. Au pire, on peut mettre les hashtags dans l'article.
Ouais, enfin, voilà. Bon.
Sinon, tu mets un truc sur le site du SAV.
Ouais, c'est ça. On va faire ça. On va mettre sur le site du SAV, on va mettre la liste des comptes Twitter de chacun. On va essayer de mettre un truc où vous pourrez voir tous nos messages sur Twitter.
Waouh. Allez, merci messieurs. Bonne course, bon Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.
Oui, rappelons les heures, Shinji.
Quoi?
Rappelons les heures. Les horaires. S'il y a un décalage horaire, tu sais.
Oui, bah vas-y, donne-les.
C'est les horaires habituels.
Merci. Hein.
Il fait le malote, vas-y, bah donne-les.
C'est ton vraiment...
Non, voilà, mission. Non, les gens sont peut-être au courant qu'il y a un décalage horaire, se demandent peut-être à quelle heure est le Grand Prix. Je les informe, c'est l'horaire de d'habitude. Même si c'est l'Angleterre.
Comme tous les ans.
Non, il fut une époque où c'était 13h, Shinji.
C'est possible.
Et, ah bah, donc c'est pas possible, c'est vérifiable. Vérifie, vas-y. Et
donc c'était pas diffusé sur TF1?
Bah oui, ce sera diffusé sur TF1, c'est la même heure.
À Wimbledon, il y a bien une heure de différence. Je pense qu'en F1, c'est pas diffusé, c'est diffusé à la même heure.
Au Royaume-Uni, il y a une heure de différence. C'est juste qu'ils décalent de façon à ce que ça soit la même heure.
Je sais bien, mais je sais bien.
Allez, n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr.
F1.com.
Et le SAV de la F1, c'est la...
Famille!
Non, c'est pas là!
C'est le, là. Bah, si, tu m'as dit, l'autre fois, ouais, c'est la Roche des podcasts!
Mais non, je t'ai coupé de phrase! C'est le Ritz des podcasts de la F1, parce qu'il a 5 étoiles, parce qu'une Rolls, ça peut pas avoir 5 étoiles. Mais le Ritz, c'est ça, 5 étoiles.
Chez Euro NCAP, ça peut avoir 5 étoiles.
À Euro NCAP, une Rolls, ça a 5 étoiles. Alors, je demande à voir.
Bah, au prix qu'ils les vendent, elle a intérêt à être à 5 étoiles. Allez, ciao à tous.
Ciao.